With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous, il est presque 17h, très heureux de vous accompagner dans Punchline pendant 2 heures. Nous allons décrypter l'actualité, débattre avec nos invités autour de ce plateau. Mathieu Vallet, porte-parole syndicat indépendant commissaire de police, bonjour.
Bonjour Olivier.
À vos côtés, Régis Le Sommier, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter, Raphaël Steinville, bonjour.
Bonjour Olivier.
Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Ludovine Delarochère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la Manif pour tous. On vous écoute dans un instant, on va revenir sur ce drame à Nice et cette question autour des trottinettes électriques. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités, c'est avec Mathieu Dorian.
Premier départ en vacances ce week-end et les grèves qui se poursuivent dans les aéroports. Des dizaines de vols vont être annulés aujourd'hui à Roissy-Charles de Gaulle. Sont concernés 1 vol sur 5 au départ ou à l'arrivée de l'aéroport parisien. À l'origine du mouvement, les salaires du personnel des aéroports et leurs conditions de travail. Une femme d'une vingtaine d'années a été tuée à l'arme blanche hier soir près de Toulouse. Son compagnon âgé de 23 ans a lui été grièvement blessé. Un homme qui connaissait les victimes a été placé en garde à vue et une enquête pour assassinat a été ouverte. Et puis les hospitalisations augmentent chez les personnes âgées. Ils seraient, selon Santé publique France, encore trop nombreux à ne pas avoir leur deuxième rappel. Hier, le nombre de contaminations s'élevait à 125 066 cas détectés en 24 heures. À titre de comparaison, il était juste sous la barre des 80 000 une semaine auparavant.
Et c'est le début des vacances et c'est la grève dans les aéroports. La pagaille aujourd'hui pour beaucoup de voyageurs. On va en parler dans un instant. Mais avant, ce drame à Nice qui a marqué beaucoup de Français. L'émotion est toujours vive après le décès d'un enfant ukrainien de 5 ans, mercredi soir, renversé par une trottinette électrique. Un drame qui bouleverse à la fois par l'âge et la nationalité de la victime et qui suscite le débat sur la réglementation des trottinettes électriques. Retour sur les faits avec Valentine Leboeuf et Stéphanie Rouquier.
C'est sur ce passage piéton que le drame s'est produit. Mercredi soir, un petit garçon de 5 ans traverse la rue avec sa mère à proximité de la promenade des Anglais. Il est alors percuté par une trottinette électrique et succombe à ses blessures. Sadia était présente au moment des faits et n'a pas pu retenir ses larmes.
D'habitude, je ne regarde pas, je m'éloigne des foules. Et là, quand j'ai vu un enfant, j'étais curieuse de savoir pourquoi. Et là, je l'ai vu.
Le petit garçon d'origine ukrainienne s'était installé en France avec sa mère en février. Ils avaient tous les deux fui la guerre. Les habitants ont une pensée pour la famille de la victime.
Je me suis senti très très mal parce que voilà, moi aussi j'ai des enfants et tout, quand tu écoutes ça, ça te fait mal au cœur.
Tout engin qui ne dépasse pas 25 km/h peut rouler sur une piste cyclable, c'est la loi. Mais pour le maire de la ville, ce n'est pas un endroit approprié pour les trottinettes électriques.
Ce sont des engins à moteur. Les pistes cyclables, c'est fait pour qu'il y ait un être humain qui fasse un effort physique pour se déplacer. Il n'y a qu'à immatriculer les trottinettes et qu'elles roulent avec leur assurance sur les voies réservées à la circulation automobile.
Le conducteur de la trottinette a été placé en garde à vue. Âgé d'une quarantaine d'années, il roulait à une vitesse excessive selon les premiers éléments de l'enquête.
Alors on va revenir sur cette réglementation des trottinettes, mais d'abord ce terrible paradoxe, puisque une mère et son enfant ont fui la guerre en Ukraine et qui sont touchés aujourd'hui par un terrible drame en France, Régis.
Oui, c'est sûr que c'est abominable. C'est abominable parce que voilà, il y a tout le drame de la séparation, l'arrachement à son pays qu'a subi ce petit enfant et sa famille. Le fait d'être accueilli en France, bon, là, c'est l'effort qu'ont fait tous les Européens pour accueillir les Ukrainiens depuis le début de ce conflit. Et puis ben là, voilà, le sort terrible d'être finalement confronté à un problème qui est récurrent. Je rappelle que il ne s'agit pas simplement d'un problème particulier à la région de Nice. Les trottinettes, depuis leur développement, c'est tout simplement l'irruption dans un milieu urbain d'un nouveau mode de déplacement. avec une opportunité au départ, de business qui est faite, avec une idée intéressante, et des nouveaux moyens de se déplacer, trottinette électrique égale, ça veut dire on pollue moins, enfin il y a tout un il y a tout un état d'esprit derrière, et puis en fait on s'aperçoit que les infrastructures urbaines ne sont pas adaptées, que bien souvent on se retrouve, on le voit bien ici, hein, il y a même pas mal d'endroits, même à Paris, où on se retrouve aussi avec des tramway en plus, donc il faut regarder à droite, à gauche, avant de pouvoir traverser une piste cyclable plus une route avec des voitures. Donc on se retrouve dans des situations quand même où ça devient extrêmement compliqué de traverser un axe. Malheureusement pour cet enfant et sa mère, ils ont choisi de prendre un passage piéton en plus, qui était totalement dans la légalité. Et puis voilà, ils ont été percutés. Par une trottinette, c'est quelque chose de c'est un coup du sort absolument épouvantable.
Mathieu Vallée, en 2022, 22 morts liés à des accidents de trottinette électrique. La mortalité des utilisateurs, c'est 120% entre 2019 et 2021. C'est quelque chose effectivement que vous observez vous aujourd'hui dans la police?
Oui, on a beaucoup d'accidents avec les deux roues, hein, que ce soit les trottinettes ou les cyclistes, effectivement, qui sont les plus vulnérables sur la route parce qu'il n'y a pas de carrosserie, parce qu'il n'y a pas de protection comme le permettent par exemple les véhicules ou les engins qui sont protégés par une carrosserie. Donc c'est quelque chose sur lequel on est vigilant. Il y a des policiers motorisés, il y a des policiers dans les grandes villes qui sont chargés de lutter pour la sécurité routière. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet. Et le sort, malheureusement, s'acharne un peu sur le sud de la France. J'ai une pensée, si vous le permettez, pour ce policier CRS de 44 ans qui, en déplacement avec sa compagnie à Montauban, en fait, hier est décédé, percuté par une fourgonnette. Et en fait, c'est un CRS de Nice, de Saint-Laurent-du-Var, la CRS 6. J'ai pu transmettre à Jean-Marc Cortès, son commandant de compagnie hier, tout mon soutien. Vous savez, les CRS, c'est une grande famille avec un sac à dos qui sillonne les routes de France, les villes, pour soutenir les policiers locaux, notamment dans la lutte contre la délinquance routière, dans la lutte contre les trafics, pour maintenir l'ordre public. On y reviendra tout à l'heure avec les grèves et les mouvements qu'on peut attendre pour la rentrée. Et donc, je voulais en profiter parce que vous voyez, il y a eu cet enfant qui a été percuté par cette trottinette, mort, et dont, vous l'avez dit, ça a ému et choqué le pays, parce qu'évidemment, ça aurait pu être l'enfant, l'ami, le filleul ou le frère de n'importe qui. Et là, j'ai une pensée aussi pour ce collègue-là, parce que c'est une unité, la CRS6, très soudée. Et on voit que, en cycliste à deux roues, à trottinette, on peut malheureusement trouver la mort rapidement. Et c'est ça que les utilisateurs doivent avoir en tête, c'est que le respect du code de la route, le respect des règles communes, n'empêche pas qu'on peut malheureusement côtoyer rapidement la blessure grave ou la mort quand on est à bord de ces engins. Et les policiers, ils font du contrôle, ils font du discernement, ils ne verbalisent pas tout le monde, sinon on mettrait des robots. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet aujourd'hui de sécurité publique. Et malheureusement, certaines municipalités, je pense à Paris, alors à Nice, c'est un peu plus différent parce qu'il y a des pistes dédiées, il y a un aménagement avec la voiture. Mais à Paris, vous voyez des routes très étroites où on s'en sert, on fait venir les vélos, il n'y a même pas la place pour un véhicule pour y passer. Sans compter que vous rajoutez ce que vous évoquiez, Régis Sonnet, tout à l'heure, les tramways, les véhicules, les scooters, les piétons. Donc aujourd'hui, on voit bien que le chacun pour soi règne sur la route et que malheureusement, on ne regarde pas les autres, on regarde que soi. Et puis d'une certaine manière, à travers la conduite d'un véhicule, transpire la fierté et l'atteinte personnelle. Quand on vous laisse pas une priorité, quand on vous klaxonne même, il y a des gens qui peuvent devenir des fous furieux et qui peuvent avoir l'impression qu'on a carrément intenté à leur dignité, à leur fierté, qui peut parfois terminer sur des drames comme des bagarres ou voire des blessures très graves quand il y a des altercations entre usagers de la route, quel que soit le moyen de locomotion utilisé.
C'est vrai, Ludovine de la Rochère, qu'effectivement, cohabiter sur les routes, on l'expérimente tous les jours, en vélo, en voiture, en trottinette, c'est très difficile, et ce, malgré les règles.
Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie complexité et qui s'est démultipliée évidemment ces dernières années et encore ces derniers mois. Et je pense que nous n'avons pas encore trouvé la bonne manière d'aménager en tout cas les zones urbaines. Parce que moi j'ajouterais aussi un point, c'est que comme vous le disiez, il y a les 200 voitures, les 200 tramways, ou bus, les 200 vélos, les 200, même sur les voies uniques, les vélos ont le droit d'aller dans l'autre sens. Eux ont le droit de griller les feux rouges et en fait, du coup, ça devient trop complexe. Mais j'ajoute les trottoirs. Sur les trottoirs, il y a aussi des cyclistes, des trottinettes, les roues, je ne sais même pas comment elles s'appellent, les roues sur lesquelles on se tient debout qui vont très vite.
Overboard.
Et donc, quand vous êtes sur un trottoir, c'est pas seulement pour traverser, vous ne pouvez pas seulement regarder à droite et à gauche. Maintenant, il faut regarder derrière vous, enfin, derrière vous et devant vous. Ça devient très difficile et je trouve que ça augmente beaucoup le stress de la vie en ville. Et à l'évidence, à Paris, et je pense malheureusement de la même manière ailleurs, on n'a pas trouvé la bonne manière de faire cohabiter tout cela. Je suis convaincue qu'on le peut, mais là, il y a un manque, je pense, d'anticipation et de travail, et puis des a priori tellement forts qu'on a permis, par exemple, aux vélos ce qu'on disait à l'instant, d'aller à contresens sur une voie unique, ce que tout le monde n'a pas encore intégré, plus de brûler beaucoup de feux, enfin de passer beaucoup de feux rouges. Et je ne pense pas que tous les conducteurs de voitures, pardon, l'aient assimilé. Et là, il y a un déséquilibre qui n'a pas recherché la sécurité, mais qui, je pense, de la part de la mairie de Paris, entre autres choses, a voulu, à tort et à raison aussi, bien sûr, hein, favoriser certaines mobilités, comme ils disent maintenant, les mobilités fluides. Mais en dehors des mots et de la novlangue, il y a des questions pratiques et de sécurité urgentes à traiter.
Et de comportement aussi, Raphaël Steinville, parce que Mathieu Valleux, vous l'évoquiez, les injures, les coups de klaxon, ça y va sur la voie publique.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a différentes responsabilités. On a évoqué les questions d'architecture urbaine pour ces circulations. Il y a la responsabilité, bien évidemment, des utilisateurs de ces trottinettes ou autres vélos. Mais il y a une autre responsabilité qu'on pointe peut-être pas suffisamment, qui est également celle des constructeurs. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que les trottinettes électriques sont limitées à 25 km/h sur les pistes, c'est quand même étrange que de voir ces véhicules qui peuvent aller beaucoup plus vite et donc pourquoi ne pas finalement dès l'origine limiter la vitesse de ces véhicules. Ça permettrait en tout cas je pense d'éviter un certain nombre de drames, et bien évidemment la responsabilité, on y reviendra, vous l'évoquez, des utilisateurs, parce que quand bien même certains véhicules sont bridés, beaucoup prennent la liberté de débrider leurs engins et donc de reproduire tous les risques qu'il y ait une vitesse excessive.
Alors cette vitesse excessive, justement, c'est un vrai problème. C'est ce que nous disait sur notre antenne ce matin la commissaire Anan Bakioui, secrétaire nationale syndicat des commissaires de la police nationale depuis Nice. Écoutez-la.
Le problème des trottinettes, c'est aussi le fait qu'elles sont extrêmement faciles à débrider. Même si vous avez un système de bridage qui est mis en place par les constructeurs, elles sont extrêmement faciles à débrider. Donc il y en a qui peuvent aller jusqu'à des fois 50, 80, voire même 100 km/h. Vous avez aujourd'hui des applications qui permettent, en utilisant un Wi-Fi, de les débrider facilement. Donc il y a une vraie question aussi là-dessus, à savoir comment on peut justement empêcher ou alors avoir un blocage ou un bridage complet. Mais quand vous avez des trottinettes qui peuvent aller jusqu'à 50, 60, 80 km/h, mais forcément les accidents sont inévitables, que ce soit pour le conducteur de la trottinette, mais surtout pour les usagers de la route.
Parce qu'effectivement, Mathieu Vallet, pour ces trottinettes qui vont à 50, même jusqu'à 100 parfois km/h, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a rien à faire, vous l'interpellez? Il y a une législation à ce sujet-là?
Oui, ces trottinettes, c'est vrai que c'est l'enfer. Alors, au-delà du débridage, on peut parler aussi de l'impossibilité d'identifier le conducteur. Vous savez que contrairement au cyclomoteur ou aux deux roues, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. C'est important, j'ajoute un élément complémentaire à ce qui est dit. Après, tous les engins sont débridables, si j'ose dire. Vous voyez, les deux roues, par exemple, les 50 cm3, les utilisateurs avertis peuvent rapidement changer le pot apocalyptique pour, en fait, augmenter la puissance et la vitesse. Donc, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Après, effectivement, contrairement à un deux roues ou le casque obligatoire, où il y a une immatriculation qui est obligatoire depuis plusieurs années, où l'identification vraiment est censée être plus aisée, alors, sauf quand on fait face à des voyous qui ont volé le deux roues, en tout cas, qui roulent sans casque et qu'on connaît pas parce que c'est pas les propriétaires des deux roues, c'est un vrai sujet. Après, quand on les intercepte, effectivement, il y a une législation qui nous permet de rétablir des contraventions, sauf si on a une mise en danger réelle de la vie d'autrui, c'est-à-dire qu'il faut mépriser toutes les règles du code de la route, volonté de percuter les piétons, être un danger public ambulant. Là, c'est un délit qui est passible d'une garde à vue, mais des infractions hautement en tant que telles n'existent pas. Et puis la législation, vous savez, elle évolue tout doucement, à tel point qu'à Paris, vous avez le préfet de police sur les Champs-Élysées qui avait pris un arrêté de circulation le soir de ces trottinettes, parce qu'en fait, les trottoirs devenaient un véritable circuit pour trottinettes. Mais dans toutes les villes, de toute façon, les utilisateurs de trottinettes, en grande partie, ne respectent rien. Ni le code de la route, ni les piétons, ni le partage de la voie publique, ni en fait tout ce qu'on impose aux autres usagers de la route, comme les cyclistes, comme les cyclomoteurs, comme les automobilistes. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai vide juridique sur le sujet de ces trottinettes. Après, un fait d'insécurité égale peut-être un fait législatif, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire aux policiers, faites des stupéfiants, faites des voleurs, faites des agresseurs, faites des violeurs, et en même temps aussi, faites à la fois... On fait du code de la route, mais c'est un gros sujet.
Puis surtout une mission en plus, et vous n'avez pas forcément les moyens. Régis, vous voulez réagir.
Des roues pour alors là, vous me direz, c'est pas des crosses, mais c'est toujours une difficulté pour nos collègues de les prendre en charge. Alors là, vous me direz, c'est 50 km/h, donc ça va. Mais il y a toujours ce sujet aussi des prises de risque qu'on autorise aux policiers ou pas pour pouvoir intercepter, par exemple, ceux qui font n'importe quoi sur ces trottinettes et qui, d'une certaine manière,
et on a débattu effectivement longuement de sujets. Régis.
Non, ce que je constate en vos images, c'est qu'il n'y a pas une seule personne, enfin. Sur trottinette qui a un casque.
Qui porte un casque, effectivement.
Qui porte un casque.
Ou alors ils sont deux, vous voyez.
Ils sont deux sur la même trottinette. On sent bien qu'en fait, ou c'est des trottinettes à usage public hein, qui ont été, donc, qui sont, on peut s'abonner, en prendre une, etc. Ou alors celles qui ont été vendues, on sent bien que le vendeur n'a pas spécifié des règles particulières à l'acheteur. Que tout ça est encore très neuf. Hein. Tout ça a été fait. La plupart des entreprises qui commercialisent ces trottinettes font pari justement sur ces nouveaux moyens de locomotion. Mais sans parler finalement du bon usage, sans parler du fait que, il vaut mieux porter un casque, sans parler de la vitesse aussi, parce que là, encore une fois, elles vont relativement lentement, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y en a qui vont très très vite. D'ailleurs, c'est moi je pense parfois même extrêmement dangereux. Ce que disait Christian Estrosi, c'était de les contraindre à aller sur des voies à véhicule à moteur. Et quand on est sans casque, on va entre 50 et 100 km/h sur une voie à véhicule à moteur, mais c'est extrêmement dangereux. Et on le voit bien, il y a des types comme ça qui déboulent comme ça. Mais vraiment, et c'est un usage nouveau, et c'est un usage qui n'est pas encore codifié. Et je pense que là réside le problème aujourd'hui de comment organiser tout ça dans un milieu urbain avec les différences à Paris, il y a des avenues assez larges, mais il y a aussi parfois, vous l'avez dit, des routes très étroites. Vous avez des métropoles comme Lyon où il y a énormément aussi de routes très étroites, de routes avec des pavés, de routes. Enfin, voilà. Donc se déplacer avec ces nouveaux moyens de locomotion est extrêmement compliqué et mériterait peut-être d'un plan, ou en tout cas qu'on puisse s'intéresser et que quand on les vende, d'expliquer, vous avez le droit de faire ci et faire ça et donner un certain nombre de règles qui n'existent pas encore.
On continue d'en parler dans un instant, mais il est 17h15, l'heure du Flash Info avec Mickaël Dorian.
Une manifestation pour défendre le droit à l'avortement a lieu cet après-midi à Paris. Elle vise à faire inscrire dans la Constitution française le droit à l'interruption volontaire de grossesse, un rassemblement qui intervient suite à la décision aux États-Unis de révoquer ce droit. La fête du cinéma est de retour dès demain et pendant 4 jours dans toutes les salles de cinéma. Vous pourrez profiter d'un tarif unique de 4 € la séance pour tous et pour tous les films. Un événement organisé par la Fédération Nationale des Cinémas Français avec le soutien de Canal+. Et puis peinture ou paillettes sur le visage, drapeau arc-en-ciel à foison, la marche des fiertés a bel et bien fait son retour à Londres ce samedi. Ce premier défilé depuis le début de la pandémie de Covid-19 rend hommage à la première marche des fiertés organisée au Royaume-Uni il y a 50 ans. Plusieurs artistes, dont la chanteuse Ava Max, doivent se produire pour célébrer ce que les organisateurs qualifient d'événement le plus grand et le plus inclusif de l'histoire.
Non mais t'as raison.
On continue, on poursuit le débat sur l'utilisation des trottinettes électriques. Alors c'est vrai, Ludovine de la Rochère, qu'au début on pensait effectivement à la fluidification de la circulation, mais là on se rend compte en fait qu'il y a un vrai danger.
Il y a un vrai danger, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très sympathique hein, quand on est au volant de ces trottinettes. Alors entre parenthèses, c'est assez cher quand on les loue, ça ne revient pas si peu cher que ça. Mais bon, en dehors de cet aspect-là des choses, c'est très sympathique, c'est très rapide, c'est très ludique. Et je pense pour ma part qu'un certain nombre de municipalités ont voulu traiter ça de manière fluide, ludique. Il y a aussi un côté très individualiste. Alors, nous sommes dans une société assez individualiste, mais on nous emmène encore plus dans ce sens-là. Et quand vous louez, vous reposez, alors on voit des trottinettes, des vélos sur les quais, du tramway, enfin, c'est dantesque. Mais rappelez-vous même la mairie de Lyon, enfin, l'un des conseillers municipaux, qui voulait des voies cyclistes inclusives et non genrées. Alors, il y a eu beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux.
Alors, c'est encore un autre
qu'est-ce
débat,
qu'une voie non genrée. Mais je disais cela pour dire à quel point, effectivement, on est très loin, à mon sens, en tout cas de la part d'un certain nombre de conseillers municipaux, de quelque chose qui est pensé, raisonné, pratique et pragmatique pour que tout cela fonctionne, puisque la première des choses en termes de circulation, c'est la sécurité des uns et des autres. Là est la responsabilité des mairies. Elle n'est pas de nous amuser. Alors c'est très sympathique, mais je pense qu'elle se trompe. En tout cas, la mairie de Paris notamment et de Lyon se trompent malheureusement dans les objectifs qui sont les leurs.
Alors on va écouter justement une commissaire de police qui était avec nous ce matin sur la difficulté de légiférer sur cette question. Écoutez.
C'est vrai que la législation elle est assez floue et en fonction de la vitesse, en fonction du fait que certaines trottinettes sont bridées, on fait des différenciations. C'est extrêmement complexe. Et les policiers, donc déjà, ont un arsenal à leur disposition qui est essentiellement contraventionnel au regard du non-respect. Si les trottinettes sont interdites de rouler sur le trottoir, elles peuvent rouler sur les pistes cyclables, ce qui est prévu par la loi, mais à une vitesse relativement réduite, c'est-à-dire au pas, c'est-à-dire à peu près 6 km/h. Mais c'est vrai que la législation elle est relativement floue.
Raphaël Steinville, une législation encore floue. Christian Estrosi, on va le voir à l'antenne. Lui, il demande une loi pour immatriculer ces engins. C'est quelque chose qui doit être étudié. Encore une loi aujourd'hui. Ou alors c'est à la mairie, finalement, de gérer ces
problèmes. Mais je comprends ce souci. Effectivement, il y a un problème. Ces trottinettes posent un problème. Après, de répondre à ce problème par toujours plus de règlements, toujours plus de lois,
c'était ça,
alors même que la plupart de l'existant... n'est que très peu appliqué parce que très peu applicable, c'est se donner bonne conscience sans que ça se traduise dans les faits. Donc moi, je serais davantage pour une limitation drastique de ces trottinettes dans les villes et le réserver à un usage ludique.
Mais fini la location, le libre service,
qui
existe encore dans
qui existe
villes.
Encore. Et puis avec justement des utilisateurs qui les prennent, qui les jettent, qui fragilisent ces trottinettes qui sont déjà des objets, on le rappelait tout à l'heure,
Et ça coûte cher aux contribuables.
Et ça coûte cher aux contribuables, ça coûte cher aux Parisiens, parce que la mairie de Paris, notamment, abonde beaucoup dans ce genre de nouvelles nouvelles mobilités, exactement. Donc voilà, moi je suis pas favorable, spontanément favorable à une nouvelle législation parce qu'il y a déjà des règles qui existent, mais qui déjà sont très compliquées à mettre en œuvre.
Régis.
Moi je crois qu'il faut regarder les choses, prendre un peu de recul et de se dire, regarder notre paysage urbain et se dire que finalement il y a pratiquement trop de véhicules, il y a déjà trop de voitures. On a, je ne sais plus combien, doublé, triplé en 20 ans le nombre de voitures disponibles. Alors, en plus, je trouve que ces trottinettes, qui ne sont pas forcément une mauvaise idée, hein, on est dans de l'électrique, on va dans un monde plus sensible aux questions environnementales, et ces trottinettes répondent aussi à ces besoins de se déplacer sans forcément utiliser sa voiture. Mais quelle est la philosophie ? C'est-à-dire que le problème de cette trottinette-là, c'est qu'elle rentre en conflit avec un milieu urbain qui a été quand même dessiné pour la voiture. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait moins de voitures ? Faire un peu la politique que veut Anne Hidalgo à Paris, c'est-à-dire progressivement dissuader les automobilistes de prendre leur voiture et puis les encourager à prendre ce genre de transport ou à prendre des bus. Mais finalement, il va falloir à un moment qu'on repense complètement la manière de se déplacer en ville, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Vous parliez des roues tout à l'heure, effectivement, c'est aussi très impressionnant et aussi quelque chose...
Et qui va très vite, hein, ça va très vite.
Les trottinettes, bon, on l'a dit, voilà. Il y a un développement de tous ceux qui sont au départ l'objet d'une intention louable, il me semble, mais qui, tant qu'on continue à avoir, là, on les voit passer à côté de bus énormes, à côté de... Il y a forcément un moment où ces choses-là peuvent pas, et on peut pas continuellement, vous parliez du côté un peu caricatural de la municipalité de Lyon, de vouloir faire des pistes non genrées et des choses comme ça, mais on peut pas multiplier les pistes, c'est ça la question. Donc il n'y a plus assez de place déjà, il me semble, pour tous ces véhicules, et le vélo qui est en train de se développer énormément, qui me paraît une bonne chose, mais c'est pareil, les pistes cyclables maintenant, ça devient... Alors, vous avez des pays plus ou moins compatibles, j'étais en Allemagne récemment, à Berlin, les pistes cyclables, c'est quasiment des autoroutes. Hein.
Mais les usagers ne sont-ils pas plus rigoureux aussi ?
Complètement, avec des feux spécifiques pour les pistes cyclables, les vélos s'arrêtent. Bon, c'est à l'allemande, hein, c'est pas pareil. Mais nous, c'est l'anarchie. Et c'est l'anarchie dans un secteur où tous ces nouveaux modes de déplacement, et bien finalement, explosent. Et il y en a de plus en plus. Et donc, il y a une cacophonie. Et il faut forcément, à un moment, qu'on pense autre chose, qu'on pense la ville différemment, en fait.
Mathieu, allez.
Non.
Non, pas une nouvelle loi. Il y a déjà beaucoup de lois en attente. On s'endort un peu là depuis plusieurs semaines politiquement, mais il y a les peines minimales, les peines planchées, les 40 000 places de prison, les problèmes de tirs de mortiers.
Comment ? Ça, c'est notre domaine.
C'est notre domaine, mais si on veut proposer une loi, il faut que ça passe par le Parlement, puisqu'il va falloir passer par le Parlement. Et je pense qu'il y a plus important aujourd'hui à faire pour des voyous qui pourraient se quotidien des gens, plutôt que malheureusement ces drames qui malheureusement ne représentent pas une majorité.
Vous nous dites quoi ? On n'a pas le temps de s'occuper des
problèmes. Non, c'est pas qu'on n'a pas le temps de s'occuper des problèmes, c'est que je pense qu'au Parlement, il y a beaucoup de textes qui vont arriver sur le pouvoir d'achat, après sur la sécurité, il y a une loi de remplacement de programmation du ministère de l'Intérieur qui va être censée nous armer pour la cybercriminalité, pour les véhicules, pour les commissariats, pour les policiers, pour qu'ils aient plus de caméras piétons, pour qu'ils aient plus de radios du futur, c'est-à-dire qu'on soit adapté à la délinquance, voyous qui eux n'attendent pas le Parlement, ni même la police qui s'adapte, mais s'adapte très vite et sur lequel on doit aussi s'adapter.
Il y a d'autres choses à traiter avant les trottinettes, voilà, c'est ça
puis, bah, il y a d'autres choses à traiter à l'internet, et puis le Parlement, il y a beaucoup de textes qui vont arriver. Et surtout, le gros sujet qu'on a, c'est le gros sujet qui préoccupe nos collègues, pardon, puisque je suis là aussi pour ça, pour évoquer modestement ce que pensent les policiers de terrain, c'est que aujourd'hui, dans toutes les villes, ça c'est une donnée commune, on ne peut plus circuler les véhicules d'urgence, pompiers, SAMU, police, gendarmerie, par rapport à ces aménagements. Donc on a des élus très bien, comme à Paris, comme à Lyon, ou à Marseille, où on est même pour plus de verre, pour plus d'écologie, pour plus de vélos, pour plus de trottinettes, pour plus de piétons, c'est très bien. Sauf que quand il faut aller sauver une femme des griffes de son mari dans des violences conjugales, quand il faut aller sauver un bébé qui est en train de décéder pour les pompiers, quand il faut aller sauver quelqu'un de la noyade ou quand il faut l'interpeller rapidement des voyous qui font des cambriolages, on aimerait accéder plus rapidement, en fait, sur les faits d'infraction, sur les faits de victimes. Et j'en veux pour preuve, si vous avez vu, alors je fais un peu la pub, pardon, hein, mais vous avez vu Notre-Dame brûle, on voit bien que dans le film, ce que le réalisateur montre en premier lieu, c'est que les pompiers ont énormément de difficultés pour accéder à Notre-Dame, puisque ça a touché le monde entier, pour circonscrire le sinistre. Donc on sait que chaque seconde, chaque minute perdue, c'est une victime qu'on ne pourra pas sauver, c'est un voyou qu'on ne pourra pas interpeller, c'est une victime qu'on ne pourra pas épargner des griffes de la sauvagerie de certains voyous aujourd'hui qui n'ont plus peur de rien. Donc on voit bien que les mobilités, d'abord pour les Français, c'est important, mais pour les services de secours tout confondu, il faut que les élus, là c'est un appel que je fais sur votre antenne, puissent réfléchir à ce qu'on puisse plus rapidement se déplacer sur les scènes d'infraction, sur les scènes de victimes, sur les scènes d'urgence où on a besoin en fait de ces héros du quotidien qui protègent le peuple français et qui ont d'une certaine manière des difficultés aujourd'hui à aller rapidement sur les interventions.
Et donc derrière le débat sur ces trottinettes électriques, celui de la voirie pour faire circuler les véhicules de police ou d'urgence. Ce sera l'occasion peut-être effectivement d'en parler prochainement. Dans un instant, on va revenir sur ces grèves à l'aéroport alors que les vacances débutent. C'était la pagaille et l'inquiétude aussi pour certains voyageurs. On en parle dans un instant, mais tout de suite on fait une pause. De retour sur le plateau de Punchline avec Mathieu Vallet, Régis Le Sommier, Raphaël Steinville, Ludovine de la Rochère. On va parler dans un instant de cette grève aujourd'hui dans les aéroports alors que les vacances débutent. Mais tout de suite, un point sur les dernières actualités avec vous, Mickaël Dorian.
15 ans de réclusion criminelle pour un collégien à Reims. Âgé de 14 ans au moment des faits, l'adolescent a été condamné pour le meurtre en juin 2021 d'un jeune garçon du même âge poignardé après un différend. Le tribunal a assorti la peine d'un suivi socio-judiciaire de 7 ans et d'une injonction de soins. Un clip de rap créé et diffusé sur Instagram par l'accusé semble être à l'origine de la tension entre les deux jeunes. Lysychansk totalement encerclé selon un représentant de l'armée séparatiste de Lugansk. Une information démentie par l'armée ukrainienne. Située à l'est de l'Ukraine, cette ville clé était au cœur d'intenses combats ces derniers jours. La prise de Lysychansk permettrait à l'armée russe d'avancer ensuite vers Sloviansk et Kramatorsk, deux autres grandes villes de la région du Donbass que Moscou cherche à conquérir. Et puis plusieurs séismes ont fait 5 morts et une cinquantaine de blessés dans le sud de l'Iran tôt ce matin. À Sayekosh, village le plus touché, plusieurs bâtiments se sont effondrés et la ville a été plongée dans l'obscurité. Le premier vice-président iranien Mohammad Mokhber a appelé les responsables locaux à mobiliser tous les moyens disponibles dans la province pour porter secours aux victimes.
Et on va prendre la direction tout de suite de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On va retrouver Mickaël Dos Santos sur place puisque toute la journée, une grève a paralysé les vols, une centaine de vols annulés. Les salariés du groupe ADP, notamment les pompiers, ceux qui travaillent sur les pistes, demandent une revalorisation salariale. Mickaël Dos Santos, bonjour. Alors quelle est l'atmosphère sur place ? Le calme est revenu, hein ?
Et oui, aéroport de Paris, la situation est totalement maîtrisée. La grève n'a plus d'impact sur les vols de ce samedi. Tous les vols, ou presque d'ailleurs, partent à l'heure. Un retour à la normale confirmé également pour la journée de dimanche avant un retour des négociations entre les syndicats et aéroport de Paris, possiblement d'ailleurs en début de semaine prochaine. Alors à cette heure-ci, on est très loin des files d'attente qu'on a pu constater il y a quelques instants, il y a quelques heures au niveau des portes d'embarquement. En revanche, beaucoup de voyageurs évoquent encore beaucoup de temps perdu. Ici même, vous pouvez le voir, on est au niveau des enregistrements des bagages, et ce malgré les bornes qui se situent juste là et qui sont sans personnel. Je vous propose d'écouter quelques témoignages que l'on a recueillis il y a quelques instants.
Je dirais qu'on a regardé un petit peu sur le site de la compagnie pour voir, et puis on s'est dit, bon, si à la dernière minute on n'avait pas de nouvelles concernant notre vol, bon, dans la logique, c'est qu'on pouvait monter sur Paris et que le vol allait être à l'heure.
On a craint, mais bon, on a regardé sur Internet, on a vu que le vol était maintenu et qu'il était à l'heure. Donc il n'y a pas eu d'inquiétude sur la partie horaire sur le vol.
C'est vrai qu'il y avait la queue, mais ça a été relativement vite. Bon, il y a eu une petite panne de tapis, mais après, ça s'est vite réglé. Donc, non, tout est rentré dans l'ordre après.
Et puisqu'on évoque les bagages ici même à la porte d'enregistrement, hier, il y a eu quelques problèmes avec des valises qui ont été égarées. Aéroport de Paris nous a confirmé que 1500 bagages n'ont pas pu être distribués à cause d'un problème de tri bagages ici à l'aéroport de Roissy, mais aussi à cause d'un problème informatique qui a touché plusieurs compagnies aériennes. Bonne nouvelle pour les voyageurs, ils vont retrouver leurs valises puisque Aéroport de Paris nous a confirmé que toutes les valises, tous les bagages sont bien évidemment tracés. Donc les pertes définitives sont totalement exclues.
Merci beaucoup Mickaël pour toutes ces précisions. Mickaël Dos Santos en direct de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle avec Laure Lestra. Alors, fort heureusement, c'est revenu à la normale pour les voyageurs. Mais écoutez, on en a rencontré quelques-uns cet après-midi. Écoutez leur état d'esprit.
Ce matin, on est parti un petit peu tôt pour prévoir un petit peu les bouchons, les grèves et tout ça. Donc malheureusement, on est arrivé à la gare Saint-Lazare, mais on a pris un bus pour aller à la gare du Nord.
C'était vraiment un petit mot dans la chance. On savait qu'il y avait des mouvements de grève. On est venu 2-3 heures avant et on a vu des personnes qui ont eu leur vol annulé peut-être 2 heures avant l'embarquement.
Alors nous, la grande difficulté déjà, c'était d'apprendre hier par l'agence de voyage qu'il fallait se présenter 4h30 avant le vol, alors qu'on s'était organisé déjà pour y être 3 heures avant.
Côté des voyageurs qui, pour la plupart, ont pris leur billet il y a bien longtemps, qui ont été empêchés de partir ou en tout cas fortement retardés aujourd'hui. Puis de l'autre, l'inquiétude, la colère de salariés. Selon vous, de quoi cette grève est-elle le signe, Raphaël ?
De quoi est-elle le signe ? Moi, j'ai l'impression qu'elle est d'abord le signe que notamment ces salariés et un certain nombre de Français vivent dans un monde un peu irréel, où l'économie leur échappe, les contraintes de la vie économique, de l'entreprise même dans laquelle ils travaillent leur échappent. Pour parler juste d'ADP, on pourrait parler dans plein d'autres domaines, mais ils ont été miraculés pendant le Covid. Finalement, il y a l'État qui a pouponné, biberonné des millions de Français. Alors, je sais que les salariés d'ADP, pour beaucoup, ont consenti à une baisse de leur salaire de 5% pour que les effectifs dans leur ensemble puissent être maintenus. Mais aujourd'hui, ils demandent, parce que l'inflation est là, une revalorisation à la hauteur de l'inflation, chose que ne peut pas leur offrir aujourd'hui leur économie. C'est un secteur qui va mal. C'est un secteur qui a été extrêmement fragilisé par la crise du Covid, qui redémarre. Et chaque grève est ruineuse, pas seulement pour les passagers, pas seulement pour ceux qui voient leurs vacances mises en péril, mais ils mettent en danger l'économie générale et l'économie de leur entreprise. Et c'est là où il y a parfois une sorte d'irresponsabilité. On comprend le chantage, on comprend même un certain nombre de leurs revendications, mais il y a aussi une réalité économique, c'est qu'on vit dans une période qui est très compliquée, et à force de tirer sur la corde et de multiplier les mouvements sociaux comme ça, il risque de se tirer une balle dans le pied.
C'est malheureusement une tragique réalité, presque une qui fait partie de la culture française, c'est-à-dire de déclencher des grèves pile au moment où les gens partent en vacances. Au moment aussi où il y a des grands événements, et ça s'est terminé par de façon tragique, souvenez-vous, au Stade de France, avec une grève de RER, au moment où on avait les 40 000 supporters britanniques. Je ne vais pas revenir sur ces événements-là, mais qui n'ont fait que accentuer le chaos. Là, en l'occurrence, il semblerait qu'on ait évité ce chaos, mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on est dans une période où l'aérien retrouve ses couleurs. On pensait que pendant longtemps, on allait encore payer finalement la 380 que vous avez derrière vous, là, ce très bel avion qui avait été remisé. Il y a tellement de demandes de départ qu'on a été obligé de faire revenir la 380, de le ressusciter pour pouvoir emporter tous ces gens vers des destinations choisies pendant les vacances. Donc, on est dans une situation qui peut redevenir vertueuse pour l'aviation. Et à cause de revendications et à cause malheureusement de ce phénomène classique, c'était arrivé avec des grèves SNCF aussi, très français typiquement, de dire pour se faire entendre, il faut qu'on le fasse à un moment déterminé et pile au moment où tous les gens partent en vacances.
Voilà. Alors on sait, Ludovine de la Rochère, le droit de grève en France, c'est très important. Néanmoins, quand c'est un jour de grand départ, on pourrait faire en sorte que cela soit évité avec des réquisitions, par exemple.
Il y aurait tout à fait la possibilité. D'ailleurs, dans la question du droit de grève, il y a des limites, malgré tout, qui ont été posées il y a quelques années. Enfin, après 1995, où on avait vu la fermeture, par exemple, à 100% du métro parisien pendant 3 semaines, ce sont des choses qui n'arrivent plus. Malgré tout, ce sont toujours les mêmes secteurs qui font grève et ils choisissent le moment le pire, puisqu'en mettant la pression sur leurs concitoyens, ils mettent la pression sur l'État. C'est doublement écœurant parce que leurs concitoyens et là les voyageurs sont ceux qui ont cotisé, là encore, parce que quand l'État aide le secteur de l'aviation, ce sont encore une fois les Français qui aident le secteur de l'aviation. Et je trouve ça tout à fait scandaleux. Évidemment, on entend bien qu'il faut des revalorisations. Là, pour le moment, ADP leur a proposé 4%. Ils estiment que ça n'est pas suffisant. C'est vrai que ça n'est pas tout à fait à hauteur de l'inflation. Mais on doit tous faire des efforts. Les salariés du privé, ils n'ont pas de possibilité de mettre la pression de cette manière-là. Ils n'ont pas d'augmentation systématique. Et s'il y a, elles ne sont pas, loin s'en faut, à hauteur de l'inflation. Et donc, à cet égard-là, on a encore une fois des entreprises, des services qui ont des droits particuliers parce qu'ils sont nécessaires au bon fonctionnement de notre pays, dont les transports, dont la santé et d'autres. Et finalement, ils profitent de cette position particulière qui leur donne beaucoup d'acquis, beaucoup de droits, de possibilités de revendiquer, là où le privé n'a pas ces possibilités. Et les droits sont très très nombreux, il y a la question des retraites et tout. À un moment donné, il faut un effort de solidarité de tous. Et c'est vrai que je trouve que ça n'est ni sympathique, ni solidaire des autres.
Alors, on ne les a pas encore entendus, ces grévistes. Je vous propose d'écouter les revendications de ces syndicalistes.
La direction, elle a profité de la pandémie pour baisser les salaires. Aujourd'hui, le trafic revient. Il n'y a plus aucun problème. Elle a supprimé des milliers d'emplois, 1150 à l'aéroport de Paris. On fonctionne à flux tendu. Et par ailleurs, ils refusent d'augmenter les salaires, ou en tout cas, ils nous donnent des augmentations de salaires qui sont ridicules par rapport aux baisses qu'ils ont engendrées.
Voilà, on a demandé à ce que les salaires augmentent parce que venir au travail, ça devient compliqué. Pour ceux qui ont des salaires, comme nos patrons, qui ont des gros salaires, donc l'inflation, ils ne le sentent pas. Mais pour un petit salarié un peu modeste, une augmentation de gasoil qui a presque doublé aujourd'hui, c'est compliqué de venir au travail.
Régis, l'après-pandémie ravive la lutte des classes, c'est ce qu'on vient d'entendre finalement.
Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, ça, c'est une habitude c'est du vocabulaire habituel. On entend toujours les mêmes choses. La question, c'est pourquoi est-ce que chez nous, ça ne peut pas se faire comme en Allemagne, par exemple, d'abord par la négociation. C'est-à-dire que en Allemagne, les syndicats existent, ils sont très puissants aussi, peut-être plus puissants d'ailleurs qu'en France. Mais il faut toujours qu'en France, il y ait un côté confrontationnel immédiat, direct, alors que ces questions sont tout à fait légitimes, je ne les conteste pas. En effet, on est dans une phase post-pandémie dans laquelle l'aérien, justement, va recommencer à faire des bénéfices et où il y a un nombre incroyable, beaucoup plus rapidement qu'est-ce compté, de retour du trafic à la normale. On est presque sur des flux qui sont comparables à ceux qui étaient antérieurs, antérieurs à la période Covid. Donc oui, il y a eu une baisse en effet, mais c'est pas, on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas été une baisse considérable des salaires pendant cette période. Je ne pense pas que ce soit des gens qui sont dont la vie est terrible au point qui soit nécessaire de bloquer les départs en vacances comme de cette façon. Et encore une fois, pourquoi ne pas privilégier d'abord une phase de négociation avec l'aéroport de Paris ou avec les compagnies aériennes?
Alors en fait, ce qu'on voit de manière assez systématique, c'est qu'il y a des négociations, elles existent, elles sont en cours et il a été proposé 4%. Et alors après, c'est là qu'on enclenche le droit de grève pour obtenir encore davantage. Et évidemment, en plus, les directions, elles le savent d'avance. Donc elles proposent moins en attendant et elles
sont sur marge de
manœuvre. On marche un peu sur la tête. Et par ailleurs, moi je suis très frappée de ce propos, ce monsieur qui dit les patrons gagnent beaucoup d'argent et donc pour eux ça n'a pas d'importance. Mais c'est une illusion. Il y a très 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 peu de personnes pour lesquelles l'inflation nous concerne absolument tous, il y a très peu de personnes pour lesquelles la hausse des prix, qui est importante en effet, est sans impact et sans importance. Tout le monde a un budget à gérer, alors effectivement de tailles différentes, et puis chacun travaille plus ou moins. Il y en a, c'est 80 heures par semaine avec des responsabilités très stressantes, et d'autres, c'est 35 heures par semaine. Et c'est là où, ce que soulignait d'ailleurs Régis aussi, il y a quand même un problème de discours, de lutte des classes un peu permanent, une obsession qui ne nous aide pas, là aussi, à faire tous des efforts les uns pour les autres.
Alors moi, j'entends très bien ce que vous dites sur la dénonciation du retour de ce discours de la lutte des classes, mais en fait, il a une effectivité et une traduction politique aujourd'hui évidente. Oui. Et c'est bien le problème, c'est qu'en fait, même quand on regarde le résultat de nos présidentielles, il dit très exactement le retour de la lutte des classes. Et donc... Alors, ce discours, il n'est pas nouveau, mais il faut comprendre que ce discours, aujourd'hui, a une traduction politique. Alors, ce n'est pas seulement la France insoumise, d'une certaine manière, même dans le discours qui est porté par Marine Le Pen aujourd'hui, on retrouve les ressorts de cette lutte des classes. Donc, ce n'est pas étonnant que de voir dans les propos de ces salariés grévistes une traduction politique de ces revendications. Et il faut s'habituer, et cette conflictualité, malheureusement, elle est de plus en plus présente dans l'entreprise, mais dans la vie tout court.
Mais il faut souligner que les syndicats, par ailleurs, représentent une minorité de salariés. Donc, en vérité, ils ont un impact assez grand et dans les secteurs où ils peuvent bloquer le pays et le bon fonctionnement, et où les Français ne peuvent plus exercer leurs libertés les plus fondamentales. Le droit, la possibilité de se déplacer est une liberté fondamentale inscrite à la Charte des droits de l'homme. Ils ne la respectent pas. Et en même temps, ceux qui décident de cela ne sont pas représentatifs, et bien moins que dans la plupart des pays, ne sont pas représentatifs de la majorité des salariés.
Sauf dans la police nationale. Le taux de syndicalisation en France aujourd'hui, c'est à peu près 10,3%. Dans la police, c'est quasiment plus de 80%. C'est vrai qu'on est l'une des professions aujourd'hui en France où il y a un taux de syndicalisation qui est assez fort, et ce... Pour le coup, il n'y a pas de lutte des classes sur ça. Dans tous les corps de la police, que ce soit les corps actifs ou administratifs, que ce soit du gardien de la paix à l'officier ou au commissaire de police, on voit qu'on a des syndicats forts. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'au plus on a des syndicats forts, au moins on a de contestations non contrôlées. On voit bien que les Gilets jaunes, par exemple, c'est des syndicats qui ont été débordés parce que les personnes, je parle l'origine du mouvement très sereine, très pacifique, où les gens demandaient la baisse du prix du gazole, où les gens demandaient la baisse du prix de la vie, que les petites gens, les gens modestes dont on est issus, dont je suis issu, demandaient effectivement à pouvoir être mieux reconnus, mieux valorisés, notamment les territoires les plus éloignés, parce qu'on pense souvent aux grandes villes, mais les territoires périurbains et ruraux sont souvent les grands oubliés. Donc c'est vrai que cette syndicalisation forte, elle aide dans notre institution, nous, à avoir d'abord des dialogues francs avec nos autorités et surtout d'avoir un poids assez important pour négocier, que ce soit les rémunérations, que ce soit l'organisation.
Mathieu Vallet, je vous donne la parole dans une minute. Vous parliez des gilets jaunes. Il y a cette grogne à l'aéroport. Est-ce qu'elle peut s'étendre? Est-ce que vous vous y préparez? On en parle dans un instant, mais tout de suite, un point sur les dernières actualités avec Mickaël Dorian.
Trois personnes ont été mises en examen hier, soupçonnées d'avoir apporté un soutien logistique et financier à un djihadiste français présent dans la zone syro-irakienne. Les trois individus ont été placés sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction antiterroriste. Le pape regrette de devoir reporter son voyage en Afrique. Le pape François, qui souffre de douleurs au genou, avait initialement prévu de se rendre ce samedi en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud. Le Seigneur sait combien mon regret est grand d'avoir été contraint de reporter cette visite tant désirée et attendue, a-t-il affirmé dans un message vidéo diffusé par le Vatican. Et puis sur le Tour de France, le Néerlandais Fabio Jakobsen a remporté la deuxième étape au sprint après le passage sur le grand pont qui relie deux des îles du Danemark. C'est le Belge Wout van Aert, deuxième à l'arrivée, qui a endossé le maillot jaune de leader au terme de cette étape sur le détroit du Grand Belt.
Mathieu Vallet, je vous redonne la parole. On parlait de cette grogne à l'aéroport de Paris. Elle va continuer, elle va durer a priori. Est-ce qu'elle pourrait s'étendre? Est-ce que, en tout cas, chez les forces de l'ordre, dans la police, vous attendez à une rentrée en septembre musclée au niveau de la grogne sociale?
Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire. On voit bien que le Parlement s'installe, que les élections importantes du pays, présidentielles et législatives, sont passées. Ce qui est par contre important de dire à vos téléspectateurs, c'est qu'on a la chance d'avoir dans la police des spécialisations. On a par exemple à Roissy, vous montrez les images de Roissy, Charles de Gaulle, on a la police aux frontières qui contrôle nos frontières, les protège et protège aussi les voyageurs qui passent dans les aéroports. On a la police judiciaire qui s'occupe des gros voyous. On a la sécurité publique qui s'occupe de protéger les gens au quotidien dans les villes et les zones périurbaines. Donc on voit bien qu'on a la chance d'avoir cette spécialisation, parce que je vous dis ça, c'est une réforme qui arrive dans notre institution, qui vise à pas faire une salade couscous, où en fait, on va mélanger la police aux frontières, la sécurité publique et la police judiciaire, alors qu'on a des spécialités qui font notre force, qui traitent la délinquance du bas vers le haut, du bas du spectre jusqu'au haut du spectre. Donc ça, c'est important qu'on garde cette force, parce que c'est ce qui fait la vitalité, la spécificité qui est enviée dans le monde entier par rapport à notre police nationale, sans parler du service de renseignement, dont on voyait qu'il y avait encore trois mises en examen aujourd'hui. Sur les mouvements sociaux, vous avez le renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Pardon, c'est des acronymes qui veulent dire que ce sont des agents de l'ombre qui ont des capteurs. On a des sections des affaires économiques et sociales, on a des affaires des suivis des mouvements sociaux, syndicaux.
Alors qu'est-ce qu'ils vous disent?
Pour l'instant, ça bouge pas tant que ça. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions sanitaires. Vous savez que pendant 2 ans, la contestation des mesures sanitaires ont entraîné un suivi important de nos services de renseignement. Je rappelle aussi que en novembre 2018, lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, un mois avant, les préfets qui font remonter à Beauvau, donc au ministère de l'Intérieur, les informations, expliquaient déjà que dans les territoires périurbains, dans les territoires ruraux, le coût de la vie chère, le 80 km/h des rois Philippe, bref, toutes ces mesures qui paraissaient très coercitives et très subies négativement par les Français, avaient fait l'objet de notes de renseignement, parce qu'on est chargé en fait de quelque chose de très rude. C'est d'une certaine manière de prédire l'avenir. On est censé déterminer un climat social, de déterminer un climat dans les territoires, de suivre aussi la radicalisation, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui elle touche tous les territoires. Donc on demande à ces agents du renseignement énormément de choses. Déjouer les attentats, suivre les personnes radicalisées ou qui sont susceptibles de basculer dans l'ultra-violence, suivre les mouvements d'ultra-gauche, d'ultra-droite, d'extrême-gauche, d'une certaine manière phagocytent les manifestations. Donc aujourd'hui, la question simple que vous me posez, à savoir est-ce qu'on craint une rentrée compliquée, une rentrée sociale difficile, la réponse pour l'instant c'est non. En revanche, cet été, on va un peu étioler cette information de manière à ce que par rapport aux syndicats, par rapport aux temps ceux qui peuvent naître ou aux sujets d'actualité qui vont arriver, on ne sait pas par exemple quand est-ce que le président de la République évoquera sa fameuse réforme des retraites avec un Parlement qui, ça vous a pas échappé, vous en parlez tous les jours, qui est totalement différent de ce qu'on a connu depuis le début de la 5e République. Donc tout ça, c'est des données nouvelles et la seule chose qu'on peut peut-être espérer, c'est que les sensibilités au Parlement étant de manière... représentée de plus importante avec un scrutin majoritaire où là, la proportionnelle permettrait une représentation plus forte, il y aura peut-être des préoccupations qui avant étaient un peu éludées dans le système politique qui aujourd'hui seront beaucoup plus, et c'est ce que je vous disais pour terminer mon propos, c'est qu'au plus les gens, par les syndicats, par les forces intermédiaires, par les partis politiques, se sentent représentés, défendus, où les sujets de terrain, les problèmes de terrain quotidiens qui préoccupent les Français, je parle pas des guéguerres politiques que tout le monde s'en fout, mais je parle des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes d'emploi, des problèmes de formation, des problèmes de mobilité, au plus c'est évoqué en plus haut lieu, au plus les gens, en fait, sont soit de manifester spontanément sans cadre syndical ou sans cadre organisé, soit de manière débordée, comme après ça peut malheureusement passer de manière pacifique à des manières violentes. Donc tout ça, c'est des éléments importants.
En tout cas, cette grogne, elle intervient
dans un...
C'était parfait. Cette grogne intervient dans un contexte d'inflation galopante. On va en parler dans la deuxième heure de Punchline. Mais pour clore cette première partie, je vous propose de parler de la communication d'Emmanuel Macron. Regardez, il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où il met en scène finalement la diplomatie française. Regardez.
C'est ça qu'on doit discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions.
Ce qui ressort de ce G7, c'est que ça n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner.
I'm going to list that seriously.
I can tell you, it's economy.
S'il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y ait la guerre, ne rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes, donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat et c'est la plus structurante parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur. Voilà.
Alors, des images diffusées sur les réseaux sociaux qui font aussi un documentaire diffusé cette semaine sur l'action du président Emmanuel Macron dans le contexte de la guerre en Ukraine. Régis Le Sommier, une nouvelle façon de communiquer du président de la République.
Une nouvelle façon, non. On sait que Emmanuel Macron est assez coutumier du fait pour se mettre en avant. On avait vu ses vidéos qu'il avait... D'ailleurs, il avait choisi d'ailleurs de faire campagne à travers des vidéos. Bon, in fine, il a quand même fait quelques meetings, mais au départ, c'était des choses avec des bribes de phrases comme ça... mise en scène très bien fait où on le voit. Moi, ce que je trouve que c'est intéressant, c'est toujours intéressant d'avoir une vue à l'intérieur du G7, d'avoir seulement.
C'est pas de la diplomatie spectacle.
Mais c'est de la diplomatie spectacle, évidemment. C'est fait autour d'Emmanuel Macron et pour Emmanuel Macron. Le problème de ce type de c'est où qu'est-ce que c'est censé démontrer. Aujourd'hui, on est face à une situation de guerre totale ou presque. Le G7 se réunit. Pour le moment, c'est les canons qui parlent en Ukraine. Il n'y a pas de place à la diplomatie, ou très peu. On n'est pas encore sur la séquence diplomatique de ce conflit. On est dans une heure très grave, avec un risque d'escalade quand même assez manifeste. On entend parler des tensions en Lituanie, entre l'enclave de Kaliningrad, des tensions en Transnistrie, en Moldavie. Donc, à tout moment, le conflit peut prendre une autre envergure. Et qu'est-ce qu'on a d'Emmanuel Macron? Ce que moi j'aurais aimé voir là-dedans, c'est la façon dont il communique, c'est-à-dire vraiment entendre ce que l'autre dit. Alors on entend Boris Johnson, oui, on s'est pas vu depuis un an, très bien, c'est super, etc. Et puis là, on va voir Emmanuel Macron qui vous explique ce qu'il faut faire avec le pétrole, etc. Non, s'il y a des vrais échanges, quand il va voir Modi, le Premier ministre indien, lui, c'est la clé. Mais il faudrait peut-être l'expliquer aussi dans le documentaire. Alors, j'ai pas vu la totalité du documentaire, mais j'ai vu le clip. Ça n'est pas expliqué. L'Inde, aujourd'hui, achète à bas prix à la Russie du pétrole qu'elle nous revend trois fois plus cher. Donc ça, est-ce qu'on en discute avec l'Indien? Est-ce que, quand on va le voir, on lui dit « Excuse-moi, mais il faudrait peut-être quand même que tu arrêtes de faire ce genre de choses » Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est-à-dire une mise en contexte. Là, pour le moment, on n'a que de l'image. On n'a que Emmanuel Macron. C'est que les autres ont leur veste et lui, il est sans veste parce qu'il est très à l'aise. C'est très bien pour Emmanuel Macron. Good point. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça signifie dans le fond et en quoi finalement, parce que son but à Emmanuel Macron, clairement, aujourd'hui on sait que les législatives l'ont mis dans une situation extrêmement compliquée à domicile. Tu me dirais, il n'est pas le seul chef d'État du G7, je pense en particulier à Boris Johnson et à Joe Biden, à avoir d'énormes difficultés à la maison. Donc peut-être en faire un petit peu des tonnes aussi à l'international pour pouvoir se montrer, pour montrer qu'on fait quelque chose. Mais Emmanuel Macron voudrait, je pense, rentrer dans l'histoire. Il voudrait être, c'est le dernier d'ailleurs de ces chefs d'État à maintenir un contact avec la Russie et à avoir, pendant toute la crise, jusqu'à présent, avoir parlé justement, on lui a reproché d'avoir dit qu'il fallait pas que la Russie soit humiliée, d'avoir continué justement à garder ce lien avec Poutine. S'il est capable un jour de faire en sorte qu'il y a un sommet, un camp des vides, quelque chose de, où on fait la paix, là, Emmanuel Macron sera remercié par l'histoire. Pour le moment, ce n'est que de la communication, hélas.
Héros de télé-réalité, Emmanuel Macron, Raphaël Stainville.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une présidence TikTok. Moi, ce qui me choque dans ces images, c'est qu'on a assisté pendant des mois, pendant la pandémie, à des conseils de défense sanitaire qui étaient faits dans le secret le plus absolu, privant d'éclaircissement et d'éclairage tous les Français. Et aujourd'hui, alors même que la diplomatie, me semble-t-il, devrait se faire de manière plus confinée, plus
compassée,
plus discrète, loin des caméras, il y a la mise en scène, effectivement, par Emmanuel Macron de sa... toute puissance, ou en tout cas sa puissance supposée sur le champ international, et qui est contrebalancée finalement par un certain nombre d'autres images qui transparaissent par ailleurs aussi sur les médias, où il est beaucoup moins à son avantage, notamment lorsqu'il rencontre Joe Biden et que ce Joe Biden semble mépriser alors que Emmanuel Macron essaye de le tenir au courant des efforts qu'il fait pour obtenir du Qatar et de l'Arabie Saoudite des efforts dans la production de pétrole. Donc voilà, c'est-à-dire que ces images, il faut les prendre d'abord comme un objet de communication et rien d'autre. Ou en tout cas, après, il faut les analyser. Mais il y a un certain nombre de blancs qui ne sont pas dans ces images qu'il faut pouvoir décrypter.
Ludovine de la Rochère, pour conclure sur ce sujet.
Écoutez, s'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce tournage, puisque c'est un tournage, une mise en scène, s'il y avait quelque chose d'intéressant qui soit de l'ordre de vraies négociations, de vraies recherches d'avancées, eh bien, par définition, ce ne serait pas dans le montage et dans ce scénario.
C'est de la vraie diplomatie.
Donc, en fait, nous n'avons qu'une impression. Emmanuel Macron qui se dégage, Emmanuel Macron, et tant mieux pour lui, se trouve beau, se trouve jeune, se trouve intelligent, et il nous en fait part dans cette mise en scène. Mais par définition, donc, ça ne peut pas être intéressant puisque des vraies négociations, elles ne sont pas mises à disposition sur YouTube. Et donc, pour ma part, j'en conclue que ça n'a aucun intérêt. Et même, je pense que ça n'est pas sain parce que le public français, les Français, il ne faut pas non plus les prendre pour des crétins.
On arrive au terme de cette première partie. Je vous remercie Mathieu Vallet, porte-parole syndicat indépendant commissaire de police, d'avoir été avec nous pendant cette première heure. Merci Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. On fait une pause et on revient dans 5 minutes. A tout de suite sur Punchline. De retour sur le plateau de Punchline, on retrouve nos invités dans un instant. Mais avant, un point sur les dernières actualités avec Mickaël Dorian.
Des dizaines de vols annulés à Roissy, Charles de Gaulle. Les pompiers de l'aéroport parisien sont en grève. Une partie des pistes ont dû être fermées, annulant un vol sur cinq au départ ou à l'arrivée. Un conflit social qui porte sur les salaires et les conditions de travail du personnel. Un nouveau préavis de grève a été déposé du 8 au 10 juillet pour le début des vacances scolaires. À l'est de l'Ukraine, les combats font rage à Lysychansk. L'armée ukrainienne affirme que la ville n'est pas encerclée, contredisant les propos des séparatistes soutenus par l'armée russe. La prise de cette ville leur permettrait de progresser vers Sloviansk et Kramatorsk, deux grandes villes du Donbass convoitées par Moscou. Et un mot de sport, en Formule 1, Carlos Sainz Jr. décroche sa première pole position au terme des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. L'Espagnol de 27 ans s'est imposé devant le leader du championnat, Max Verstappen, sur la piste du mythique tracé de Silverstone. La deuxième ligne est revenue au monégasque Charles Leclerc. Le Mexicain Sergio Pérez ferme la marche.
Le point info d'Isabelle Piboulot. Et on accueille Julien Drey. Bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur Mouvement Réinventé. Bonsoir Thierry Mariani.
Bonsoir.
Député européen du Rassemblement National. On va en venir tout de suite à la situation dans les hôpitaux. Au début de cet été, les professionnels de santé alertent depuis plusieurs mois, notamment dans les urgences, et craignent un été de tous les dangers. En déplacement dans un hôpital du Val-d'Oise, la Première ministre a détaillé hier les 41 propositions de la mission flash sur les urgences et l'hôpital.
Un document de 60 pages, 41 propositions et 3 axes forts dans ce rapport. La mission FCASH recommande de réguler l'accès aux urgences, autrement dit, limiter l'accès aux seules urgences vitales, notamment la nuit. Le but, inciter la population à appeler le SAMU pour éviter l'engorgement de l'hôpital. D'autres mesures comme l'augmentation de la rémunération des médecins, notamment ceux qui travaillent la nuit et lors des ponts, ont été évoquées. Faire appel à des soignants retraités volontaires est aussi une option. En visite dans un hôpital de Pontoise ce vendredi, la Première ministre Elisabeth Borne a indiqué retenir toutes les propositions de la mission Flash.
C'est une boîte à outils qui va être mise à disposition de tous les territoires pour que les professionnels de santé, les élus, tous les acteurs aussi, toutes les professions de la santé puissent s'en emparer et décliner localement les bonnes réponses pour les Français.
Reste à savoir ce que va faire le gouvernement sur le long terme, notamment avec le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale.
Et parmi ces mesures, les médecins auront une majoration de 15 euros des consultations s'ils accueillent quelqu'un qui ne fait pas partie de leur patientèle. On va retrouver Agnès Gianotti. Bonjour, vous êtes médecin généraliste, présidente du syndicat MG France. Merci d'être avec nous. Les généralistes appelés à la rescousse pour l'été avec 15 euros pour la consultation, 15 euros supplémentaires. Est-ce que vous saluez cette mesure? On le rappelle, une mesure à court terme.
Bonjour. Oui, nous saluons cette mesure, mais vous avez oublié un aspect qui est essentiel, c'est que ce sont les consultations régulées par un régulateur qui seront valorisées. C'est essentiel parce qu'il ne s'agit pas de valoriser tout et n'importe quoi. Donc là, la régulation permet en général de régler sans consultation 40% des appels des gens qui demandent des conseils ou qui disent « j'ai besoin d'une consultation ». Donc c'est très très important de comprendre qu'il s'agit des consultations régulées.
Orienter à tout prix que le patient quitte son domicile, orienter le patient, c'est l'un des caps aussi hein, de cette mission flash. C'est une bonne chose, c'était une priorité?
Oui, c'est indispensable parce que les gens allaient aux urgences dans la mesure où les urgences, c'est toujours ouvert, c'est visible et c'est bien identifié. Donc il faudra absolument éduquer la population au bon usage des soins, qui je dois aller consulter, le médecin traitant d'abord, ce qui n'est pas toujours fait, et quand il n'est pas là, comment je fais. Il faut aussi que sur les territoires, les professionnels s'organisent entre la ville et l'hôpital pour que les gens n'attendent pas des heures, pour qu'ils soient mieux soignés, parce qu'il faut être soigné par le bon professionnel au bon moment, et que ça corresponde aux vrais besoins de santé de la population.
Vous restez avec nous, Agnès Giannotti. On va faire réagir nos invités en plateau. Julien Drey, ces mesures, on le disait, c'est à court terme, donc ce n'est pas une vision finalement. Ça s'apparente plutôt à l'application de la technique du sparadrap, selon vous ?
Il vaut mieux ça que rien du tout. Ouais. Excusez-moi de vous le dire. On regarde la situation qu'il y a dans les urgences, la situation pour les personnels. Bon, il y a des éléments qu'il faut prendre en considération. C'est bon. Maintenant, c'est évident que ça va pas changer du jour au lendemain. La vraie question qui est posée, c'est est-ce qu'ils vont arriver à trouver du personnel? Parce que il y a une pénurie de personnel considérable, une surcharge de travail pour celles et ceux qui restent. Et c'est pas un simple problème de salaire. Hein, parce que je pense qu'on peut même augmenter encore. Il y a aujourd'hui toute une partie des soignants qui veulent plus travailler. La question qui est posée aussi, c'est de savoir si on revient ou non sur les sanctions qui ont été prononcées sur ces soignants qui voulaient pas être vaccinés et qu'on a exclu du dispositif et qui fait que là aujourd'hui on se retrouve dans cette pénurie. Voilà. Donc oui, il faut donner tous les moyens parce qu'on voit bien il y a une reprise du Covid, il y a des risques de canicule. Il faut effectivement trouver un système où tout le monde ne se précipite pas aux urgences et ceux qui travaillent aux urgences sont respectés et considéré.
Thierry Mariani, c'est vrai que le cap hein, commence par changer le comportement des Français pour qu'ils arrivent de se précipiter aux urgences pour un oui ou pour un non. C'est comme ça, c'est par là que ça doit commencer, la résolution de la crise de l'hôpital.
Pourquoi on demande aux Français de changer de comportement? Parce que le gouvernement ne fait rien sur le secteur hospitalier. Au cas où on l'aurait oublié, Macron est au pouvoir depuis 5 ans. Je vous rappelle qu'on a eu des grands débats, des ségures de la santé. Maintenant, on a une mission flash. Je ne sais pas ce qu'on aura la prochaine fois. Une mission éclair. En réalité, le problème, on le connaît depuis des années. Voilà. Et l'été, on découvre, j'ai envie de dire comme chaque été, qu'effectivement, il faut adopter un nouveau modèle parce qu'on n'a pas assez de personnel, comme le disait Julien Drey. Alors, on nous dit maintenant, l'exemple, c'est, par exemple, ce sera les urgences à Bordeaux. Qu'on va fermer et où il faudra prendre une sorte de rendez-vous préalable pour aller aux urgences. Franchement, tout ça n'est pas très sérieux. Oui, il faut réintégrer, je pense, d'urgence les soignants qui ont été radiés, parce qu'on en a besoin, d'abord. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a des déserts médicaux. Moi, je suis issu d'une zone rurale où on a à peu près 10 millions de Français qui n'ont pas accès aux services des urgences. Et puis, je ne vois pas très bien comment ça va fonctionner. Une mère de famille qui a un gosse qui a 42 fièvres, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre 2 jours. Bref, on est dans une situation où, aujourd'hui, on ne peut plus attendre et il est temps de résoudre ce problème de personnel. Ce n'est pas 12 euros qui vont changer quelque chose.
Docteur Agnès Giannotti, vous êtes toujours avec nous. Vous venez d'entendre nos invités sur ce plateau. Effectivement, l'augmentation du prix de la consultation, finalement, ça ne change rien à partir du moment où le fond du problème, c'est le manque de personnel.
Alors, il faut distinguer les problématiques à l'hôpital et en ville. Elles sont liées. Par exemple, ce qui embouteille les urgences, c'est que les lits d'aval ne sont pas libérés. Donc, comme les gens ont du mal à sortir de l'hôpital, du coup, quand quelqu'un a besoin d'y rentrer, ça embouteille les urgences. Donc, les sorties d'hôpital sont aussi à travailler entre l'hôpital et la ville dans les territoires. Il y a beaucoup de réformes structurelles qu'il faut mettre en place. Donc, c'est sûr que ce n'est pas avec un coup de baguette magique. Il y a des choses qui ne sont pas précisées, donc on se demande comment elles vont être faites. Mais bon, on espère que c'est le début d'un travail en commun avec une vision globale de l'organisation du système de soins.
Qu'est-ce qui n'a pas été précisé, justement, précisément ?
Par exemple, comment on travaille pour que les lits d'hôpital se libèrent plus vite quand les gens n'ont plus besoin de rester à l'hôpital? Car souvent, ils y restent, car les sorties sont compliquées pour des raisons psychosociales, comment le patient va sortir, par qui il va être suivi. Donc ça, c'est en ville qu'on doit s'en occuper, mais souvent, il y a un gap entre l'hôpital et la ville, donc il faut vraiment qu'on travaille ensemble.
Vous craignez d'un dispositif en deçà des attentes?
De toute façon, on n'espérait pas qu'en 3 semaines de travail, ça nous règle tout. Mais il y a certaines choses qui sont des avancées, il faut le dire, mais elles sont parcellaires, elles ne sont pas pérennes. Donc nous, par exemple, on va avoir des négociations conventionnelles qui vont démarrer en septembre et on espère qu'il y a des mesures plus structurelles qui vont nous aider à prendre en charge l'ensemble de la population parce qu'on veut absolument que tout le monde puisse se soigner.
Alors Julien Drey, on vient de l'entendre, des avancées quand même hein, avec cette...
Non mais Julien, il y a un problème de gestion de l'afflux de ceux qui sont malades, qui ne trouvent pas, parce qu'il n'y a plus ce qu'il y avait quand moi j'étais jeune ou plus jeune, c'était il y a longtemps je reconnais, c'est-à-dire on appelait le médecin qui était de garde la nuit, qui venait, voilà, là on passe par SOS médecin, SOS médecin est souvent saturé, les régulateurs vous ont au téléphone mais ils savent pas bien et en général ils veulent pas prendre de risques parce qu'on a vu après tous les risques judiciaires, donc ils précipitent dans les services d'urgence. Alors je ferai une remarque, c'est intéressant que le gouvernement à aucun moment se pose cette question-là. Nous avons perdu à cause du Covid, à travers le Covid plus exactement, des milliers d'infirmières libérales qui ont arrêté de travailler parce qu'elles n'en pouvaient plus, parce qu'elles ne gagnaient pas bien leur vie, parce qu'elles étaient pressionnées, pressurées. Je ne comprends pas pourquoi ces infirmières qui ont une énorme expérience ne sont pas rattrapées en leur donnant un statut particulier. Elles sont, vous savez, des fois, elles savent mieux encore que les médecins de ville ce qu'il faut faire, comment il faut réagir en disant de prendre les premiers médicaments. Donc on pourrait très bien créer un statut particulier pour les faire revenir en leur donnant des garanties financières et un statut sérieux. Parce que la question qui est posée, c'est celle-là. Moi, je pense que, comme n'importe qui, quand on est malade, on a envie d'avoir une réponse. Et si on n'en a pas, eh bien, on se précipite aux urgences.
– Alors justement, les urgences fermées cet été, pas moins de 13, on va le voir sur une carte dans un instant, Ludovine de La Rochère devant ces faits. 13 urgences fermées cet été. Finalement, comment est-ce qu'on a pu en arriver là?
Alors écoutez, si on regarde l'histoire de la gestion de la politique de la santé, on voit bien qu'il y a eu depuis quelques années un certain nombre de mesures. Et à l'évidence, ces mesures correspondent à la dégradation toujours plus importante de ce système. Il y a eu la tarification à l'acte, il y a eu la création des agences ARS. Elles ne correspondent pas à une amélioration, loin s'en faut, de la manière dont ça se passe. Et aujourd'hui, il n'y a aucune remise en cause de leur rôle, de leur mission, de leur périmètre. Bien au contraire, cela ne fait que se renforcer. Les Français savent bien que aujourd'hui, depuis des années, donc, la politique n'a été que budgétaire. On entend le problème du budget. Sauf que quand on parle de santé, il doit y avoir un double objectif. C'est d'abord la santé dans les contraintes budgétaires et non pas d'abord le budget et la santé gérera derrière. Mais cette logique, elle a conduit à dire moins il y aura de médecins, moins il y aura de consultations, c'est délirant. Moins il y aura de spécialistes, moins il y aura de consultations coûteuses, c'est délirant. Donc aujourd'hui, on manque de médecins, on manque de spécialités, etc. Moins il y aura de lits à l'hôpital, moins il y aura d'occupants dans les lits, donc moins ce sera cher. Et ils ont quand même réussi à faire une chose grandiose. On a réduit considérablement le nombre de lits dans les services en se disant, s'il y a un besoin supplémentaire, le dit malade ira dans un autre service. Mais les autres services, ils sont bouqués. Et donc ça donne lieu à un chaos grandiose. Vous avez eu, à cela s'ajoutent les 35 heures. Alors elles ont été un petit peu modulées, mais ça a été un nouveau décrochement. Ça a été également un décrochement important dans le bon fonctionnement de ce dispositif. On en vient à une situation où je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Drey. Les soignants travaillent énormément. Ce n'est pas qu'ils refusent de soigner et de travailler. Non, mais vous disiez, ils ne veulent plus travailler. Ils ne refusent pas. Mais regardez, le privé fonctionne tout à fait normalement. Il n'y a pas eu de décrochage particulier. Le public ne fonctionne pas. À un moment donné, en fait, les soignants ne peuvent plus travailler. Et moi, j'ai dans mon entourage proche des étudiants en médecine ou des internes ou des tout jeunes médecins. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, on leur a ajouté une année supplémentaire au service de l'État obligatoire. C'est ce qu'on appelle l'année de docteur junior. Comme ils sont déjà médecins, mais donc au service de l'État pleinement, ils n'ont pas le droit de partir ailleurs ou d'ouvrir leur cabinet de consultation ou que sais-je. Eh bien, eux travaillent là, 12 mois sur 12. Ils n'ont pas le droit de prendre des vacances cet été. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres problématiques. La couverture maladie universelle qui fait que, là aussi, c'est 100% à la charge de l'État, etc., etc. Et donc là, c'est du sparadrap, comme vous disiez. En effet, il faut. Là, on ne peut pas faire autrement. Mais depuis des mois et des mois et des mois qu'on en parle et qu'on le constate, qu'est-ce qui a changé structurellement parlant? Rien, absolument rien, c'est vraiment atterrant.
Régis Le Sommier, un mot, et Thierry Mariani.
Ce qui est quand même incroyable dans cette histoire, c'est que on part quand même du constat qu'on vient de vivre 2 ans de pandémie dans lequel le personnel médical a été aux avant-postes.
On n'a pas tiré les leçons.
Il semblerait que non. Il semblerait que finalement, cette discussion qu'on a autour de la table aujourd'hui, on pouvait l'avoir il y a un an, c'est exactement la même chose. Et que face à ce drame planétaire qui a été cette maladie, on a envoyé nos personnels soignants au front. On les a applaudis pendant longtemps. Et aujourd'hui, et cette histoire, ce que vous soulignez sur la question de la priorité budgétaire, était déjà avant la pandémie. Souvenez-vous, ça fait des années que ça dure. On n'a pas pris la mesure, finalement, de ne serait-ce qu'une esquisse de réforme. Tout ça pour finir au début de l'été, parce qu'on sent bien qu'il y a des services. Donc, qu'il y a des services d'urgence qui vont fermer. On désigne une mission flash, mais déjà l'utilisation de ce terme est déjà synonyme d'échec. C'est-à-dire, on fait une mission flash parce que on peut pas faire autrement. Il y a des gens qui travaillent. Il y a un gouvernement. Vous vous souvenez, à chaque fois, on nous dit, vous regardez, les ministres sont au travail. Voilà. Alors ça, c'est oui. On les voit autour de la table, etc. Mais ils font quoi finalement?
Thierry Mariani, on a ce constat. Vous avez ce constat autour de la table. Rien n'a bougé finalement depuis le Covid. À qui la faute?
La faute au gouvernement, de manière évidente, qui n'a pas tiré les conclusions de cette situation. Et puis, si vous me permettez, on est depuis plus de 10 ans dans une dérive où certaines zones sont complètement abandonnées. Quand j'étais, il y a plus de 10 ans, maire de Valréas, et que j'avais le nord du Vaucluse, qui est une zone rurale, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Il y avait des médecins de garde. On a supprimé ça, ce qui, à mon avis, était une demande des syndicats de médecins. Mais qui aujourd'hui, pour la population, est un vrai problème. À l'époque, on n'allait pas forcément dans le service d'urgence. Pourquoi? Parce qu'on avait la liste des médecins de garde et on savait que chaque nuit, il y avait un médecin de garde. Et ça, je pense que c'est une erreur sur laquelle aujourd'hui, il faut non pas revenir, mais peut-être trouver des moyens d'incitation pour les jeunes médecins qui s'installent dans ces zones. Parce qu'il ne faut pas s'étonner si les services d'urgence sont encombrés, puisqu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une ville moyenne, vous ne savez pas à qui vous adresser, à part les services d'urgence.
À Paris aussi.
On va demander dans un instant à Agnès Giannotti ce qu'elle en pense justement de la suppression de ces médecins de garde. Mais avant, Julien Drey.
Non, moi, je n'ai pas dit que les gens ne travaillaient pas. J'ai dit simplement
une
réalité. D'abord, ils sont fatigués. Et il y a une réalité que vous ne pouvez pas contester. Il y a beaucoup d'infirmières libérales. Je crois que c'est plusieurs milliers qui ont arrêté.
C'est le système hospitalier.
Or, c'est un savoir-faire. Parce que quel est un des problèmes? Moi, je suis d'accord pour dire les gouvernements. Mais le problème, c'est que c'est pas rien. On n'embauche pas des infirmières et des médecins comme ça du jour au lendemain. Il y a une formation. Ouais. Donc, il y a un temps. Et c'est pour ça qu'on a besoin, dans le temps où il faut remettre en cause le fameux numerus clausus tel qu'il a été...
Emmanuel Macron l'a appelé apertus clausus.
Oui, d'accord, mais enfin, il faut le remettre en... Et après, il faut des années pour les former. Les infirmières, c'est pareil. Donc, il faut essayer de trouver d'abord des solutions d'urgence. Or, il y a des compétences qui existent. C'est pour ça qu'il faut essayer de les réattirer dans le service public. Alors après, si vous me permettrez cette petite remarque générale, moi, je suis très content de voir que désormais, il y a un consensus pour dire que la santé n'a pas de prix et que l'hôpital public doit être défendu. C'était pas le cas idéologiquement parlant ces dernières années.
Effectivement, c'est un médecin, le docteur François Braun, qui est à la tête de cette mission et qui a été entendu puisque toutes les mesures ont été acceptées. On va, Agnès Giannotti, médecin généraliste, présidente du syndicat MG France, vous êtes toujours avec nous. Vous entendiez à l'instant Thierry Mariani parler de l'erreur de cette suppression des médecins de garde, notamment dans les zones les plus reculées, les plus rurales. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire?
Non, j'ai pas du tout la même analyse parce que une enquête a été faite par le Conseil national de l'ordre. La permanence de soins ambulatoires est correcte et a lieu dans 95% du territoire français. Donc c'est vrai qu'il y a 5% du territoire où il reste des questions qu'il faut régler, ça je suis d'accord avec ça. Le vrai problème, c'est en fait aux heures d'ouverture des cabinets. C'est-à-dire que comme la démographie médicale est en diminution, c'est pas aux horaires de soir et de nuit ou de dimanche qu'il y a des difficultés, c'est pendant la journée. Donc c'est bien le service d'accès aux soins et comment on s'organise tous ensemble. Si c'est, la charge est prise collectivement par les médecins, ça représenterait à peu près une ou deux consultations supplémentaires par jour. Donc c'est pas inimaginable, mais il faut qu'on ait des assistants médicaux dans nos cabinets, il faut qu'on travaille avec, de façon plus proche avec des infirmières. Enfin, il y a des choses structurelles à mettre en place pour arriver à soigner la population comme il faut.
Thierry Mariani, vous voulez réagir?
Docteur, excusez-moi, mais faire une étude par le Conseil de l'Ordre sur la disponibilité des médecins, c'est un peu comme quand le gouvernement demande une étude à McKinsey, quoi. On est un peu sûr du résultat à l'avance.
C'est pas la disponibilité, c'est pour savoir si les gardes sont assurés, comme vous veniez de le dire. Donc,
c'est pas le sentiment qu'on a beaucoup dans de nombreuses zones rurales.
Mais c'est pour ça qu'il faut aller au-delà du sentiment et il faut aller regarder.
C'est la réalité, quoi.
J'ai pas dit qu'il faut pas régler les problèmes dans les 5% du territoire où il y a des problèmes, j'ai pas dit ça. Mais il faut comprendre que l'essentiel du problème n'est pas là, contrairement aux apparences. Il est en journée.
Ludovine de la Rochère.
Oui, j'allais rajouter, enfin pardonnez-moi cher docteur, il n'y a pas de médecin de garde, il y a SOS Médecins, il y a différentes organisations, mais qui en réalité sont privées, ce n'est pas l'État qui a mis ce dispositif en place, et il n'est pas général à tous les médecins n'ont pas cette obligation. Mais je voulais ajouter une chose,
madame,
ce qui est vrai...
Permanence de soins ambulatoires avec des listes de garde déposées à l'ARS et ça a lieu dans...
Si c'est l'ARS qui a la liste, c'est peut-être pour ça que les Français ne sont pas au courant. Parce que le fait est, il y a aussi un autre élément. Les modes de vie ont considérablement changé. Vous prenez une famille, vous prenez un père et une mère, ils travaillent. Et donc, ils emmènent et ils cherchent un médecin et leur enfant est à la crèche. Alors, la crèche, l'école peut appeler les parents en demandant que l'un des deux vienne le chercher. En général, ça se dénoue à la fin de la journée, voire le soir. Et c'est le moment où il n'y a plus qu'une seule solution. Ce sont les urgences.
Les urgences, effectivement. Vous entendez cette réalité, docteur ?
Oui, mais c'est pour ça que quand on appelle, si les patients appelaient la régulation et avaient au téléphone un médecin qui leur donne des conseils, très très souvent l'inquiétude des parents peut être différée au lendemain et là, on comprend l'inquiétude ressentie par les gens.
Le lendemain, c'est bien la question. Le lendemain, les parents travaillent. Et les parents, avec un tout petit, il est très souvent malade, surtout s'il est en crèche. Donc, c'est tous les paradoxes. Et les parents, ils ont droit à 4 journées, je crois, au maximum pour enfants malades. Et donc, en fait, au bout de la 7e, 10e petite maladie enfantine, eh bien, ils n'ont plus cette possibilité de manquer. Et donc, en fait, les parents gèrent beaucoup de choses le soir et le week-end. Et ça se reporte donc sur les systèmes d'urgence. Autre chose, mais il y a un autre aspect qui est la multiplication des techniques médicales qui est tout à fait fantastique mais qui implique aussi la possibilité d'examen. Si vous allez chez votre médecin généraliste, il va vous envoyer faire un examen au labo, un examen IRM, hein. Vous allez à l'hôpital et vous savez que vous aurez tout d'un seul coup. Et ce package dans la vie stressée et très dense d'aujourd'hui, il est irrésistible. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Français recourent très facilement aux urgences. Et puis, les techniques que j'évoquais, elles ont un coût très important et c'est aussi pour ça, et c'est vrai qu'il y a une question de budget, que ces difficultés financières sont de plus en plus présentes et qu'on a l'impression qu'on n'a pas accès à tout alors que beaucoup de possibilités existent. Ça crée une très grande frustration. J'ajoute que les médecins, on leur donne aussi beaucoup d'obligations en matière sociétale. Je pense à la procréation médicalement assistée sans cause médicale. Elle crée aujourd'hui de très grands débordements, de très grands embouteillages dans les services afférents parce qu'il n'y a pas les capacités, les possibilités, les financements, on manque de tout, etc., etc. Donc effectivement, le système, il est au bord de l'implosion. C'est pas étonnant, malheureusement.
Donc une mission flash, au fond, qui prendrait pas suffisamment en compte le quotidien et la réalité des Français, Julien Drey.
Le problème, c'est que il y a deux niveaux. Il y a un problème de passer l'été et éviter qu'il y ait des drames.
C'est le but de cette mission.
Le but de cette mission. Et après, ce qu'on peut attendre, c'est qu'il y ait des vraies réformes structurelles et pas qu'on nous balade encore.
Mission sparadrap.
Qu'il y ait des vraies réformes structurelles. Il va falloir former des personnels, il va falloir les recruter, il va falloir leur donner des responsabilités nouvelles. Quoi. Et il y a toute une organisation nouvelle des soins. On a effectivement maintenant de plus en plus, mais il faut pousser à ça, des regroupements de médecins qui font qu'effectivement il y a des maisons de santé. Quoi. C'est-à-dire vous avez tout se regroupe ensemble, mais il faut leur faciliter la possibilité parce que moi j'ai des jeunes médecins qui me disent c'est tellement compliqué d'avoir les autorisations pour qu'on soit tous ensemble, qu'on le fait pas. Voilà. Mais on sait que si vous allez voir le dentiste en même temps et que dans le même centre vous avez aussi les analyses et que vous avez les consultations possibles, ça facilite les choses. Et là, il faut aussi obtenir la possibilité, ce qui n'est pas pour l'instant acquis, qu'il y ait la possibilité de travailler tard la nuit, tard le soir.
Et de fait,
les autorisations
là, dans ce
qu'ils demandent et qu'ils n'ont pas.
dans ce cas-là, il n'y a plus besoin d'aller aux urgences. Oui. Et ces centres qui ajoutent même en général un petit centre de bobologie pour les petites blessures du quotidien et tout, qui font partie de ce qui engorge les hôpitaux, qui ne nécessitent pas les urgences hospitalières, mais qui nécessitent réellement et urgemment un médecin. Un enfant qui tombe, qui se fait une coupure un peu profonde à la tête, ça saigne beaucoup, il arrive à l'hôpital et ça ne le nécessite pas en vérité. Et donc ce type de solution est en train de se démultiplier, c'est une bonne nouvelle, c'est encore le privé et c'est pas origine
Thierry Mariani, justement, cette centralisation, ces maisons de santé finalement pour dans les zones rurales, ça c'est l'option, le cap qu'il faut prendre.
C'est administrativement très dur à être mis en place. Moi, j'en ai vu un certain nombre dans ma zone, mais c'est très long. Mais je crois que c'est surtout aussi la réforme de l'ARS qu'il faut voir. Parce que dans cette crise du Covid, tout le monde a souligné la lourdeur des ARS, le manque de réactivité. Et finalement, un an et demi après, on se retrouve dans la même situation.
Ils ont repris le pouvoir.
Oui, ils ont repris le pouvoir.
La technocratie qui s'était installée grâce aux ARS dans une logique comptable, parce que c'est ça le fond de l'affaire, elle a baissé la tête pendant le Covid parce qu'elle a été mise sous la pression de l'opinion, mais on voit bien qu'elle a repris le pouvoir. Et alors, cette technocratie-là, elle déteste les maisons de santé, tout ce qui est fait. Elle n'arrive pas à comprendre le système particulier français, qui est la combinaison d'un bon système public avec un bon système libéral. Et donc, elle met des bâtons dans les roues dans tout ce qui qui n'est pas sous son contrôle et sa tutelle. Et ça, c'est paralysant.
Et véritablement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, aucun constat tiré de cette crise Covid par rapport à ce que enfin, c'est-à-dire on serait en droit et le personnel médical lui-même serait en droit qu'une réforme est émergée de ça, et en fait pas du tout. Il semblerait qu'il n'y a rien qui a été véritablement mis en place et qu'on reprend progressivement les mauvaises habitudes dont on a vu tous les travers être exposés finalement pendant cette période.
Un dernier mot, pour conclure ce sujet.
Les généralistes eux-mêmes aujourd'hui ont l'obligation de faire une spécialité, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de réussir le concours de l'internat et être généraliste, c'est maintenant une spécialité. Donc ils ont de très longues années d'études. Et finalement, ils ont droit de demander comme honoraire 22 euros pour la consultation. Si on compare à d'autres professions qui sont éminemment respectables et nécessaires, je pense aux plombiers, à l'électricien, un médecin donc généraliste qui a fait quasiment 10 années d'études, il vit difficilement, il a beaucoup de mal à vivre. Et donc il ne va pas en plus travailler tard le soir, il n'en a pas le droit. Ça ne rapporte pas grand-chose. Il préfère aussi prendre un peu de temps pour sa vie privée. C'est pour cela aussi que nous n'avons plus de médecins disponibles. Et là encore, qu'on se tourne vers l'hôpital.
Non, c'est pas qu'on n'a pas de médecins disponibles. C'est qu'on a des milliers de jeunes qui aimeraient bien faire des études, être médecins,
mais qui sont recalés
parce qu'il y a la première année de médecine qui est faite pour exclure ceux qui ne rentrent pas dans la norme.
Allez, on va remercier le docteur Agnès Gianotti, médecin généraliste, président du syndicat MG France. Merci beaucoup d'avoir été en liaison avec nous en direct sur CNews. On se retrouve dans un petit instant. On fait une pause pub. De retour sur le plateau de Punchline, toujours avec Julien Drey, Régis Le Sommier, Thierry Mariani, Ludovine de La Rochère. On a parlé de la grève, on a parlé de la crise de l'hôpital. Le futur gouvernement a donc du pain sur la planche. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne préparent le remaniement. On en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur les dernières informations. Et c'est avec Isabelle Piboulot.
En Espagne, la grève chez Ryanair prolongée de 12 jours. Aujourd'hui, le mouvement a également concerné la compagnie EasyJet. Au total, 15 de leurs vols ont été annulés et 175 retardés. La grève, débutée le 24 juin, va continuer pour Ryanair sur trois périodes entre le 12 et le 28 juillet. Elle touchera 10 aéroports espagnols. Le personnel réclame toujours de meilleures conditions de travail. Avorter est un droit fondamental, c'est ce qu'ont revendiqué plusieurs centaines de manifestants aujourd'hui dans les rues de Paris. Une manifestation à l'appel du collectif Avortement en Europe pour défendre le droit à l'IVG et demander son inscription dans la Constitution française. Une mobilisation initiée notamment suite à la décision de la Cour suprême américaine de révoquer ce droit.
Le périphérique parisien bloqué par des militants écologistes. À la mi-journée, une dizaine de jeunes à hauteur de la porte d'Italie se sont fait déloger par la police. 11 personnes ont été interpellées. Ces activistes de la campagne Dernière Rénovation demandent aux députés de s'engager à voter une loi sur la rénovation énergétique globale des bâtiments en France.
On en parlait, grève, inflation, crise de l'hôpital, des dossiers chauds pour le futur gouvernement. Le remaniement devrait avoir lieu lundi ou mardi avant la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne, mercredi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, un nouveau gouvernement avec qui ? Les précisions d'Élodie Huchard.
Le président de la République est de retour sur le territoire national. Il peut donc s'occuper du remaniement parce que c'est bien lui, évidemment, qui est aux affaires. Un membre de son gouvernement nous disait, je le cite, « Il reste la pièce maîtresse, il va être à la manœuvre. On le voit, il est très offensif, d'autant plus que la première ministre est affaiblie. » Alors l'option la plus probable en termes de calendrier, ce serait un nouveau gouvernement lundi, mardi les passations de pouvoir et puis mercredi, conseil des ministres, puis le gouvernement assistera au discours de politique générale. Option numéro 2, attendre ce fameux discours. Pourquoi ? Parce que si Elisabeth Borne veut engager un vote de confiance, elle a tout intérêt à s'assurer un maximum de votes au sein de l'Assemblée nationale et donc à ne pas faire sortir des députés lors de ce remaniement. De toute façon, ce remaniement est obligatoire pour plusieurs raisons. D'abord, il y a 4 ministres à remplacer, 3 parce qu'elles ont perdu aux élections législatives. C'est le cas de Brigitte Bourguignon, Amélie de Montchalin, Justine Bénin. Et puis, Yaël Braun-Pivet est devenue présidente de l'Assemblée nationale. Il faut donc la remplacer. Autre chose, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de portefeuilles qui ne sont plus attribués. Par exemple, on peut citer le logement, la ville ou bien encore les transports. Et puis évidemment, il y a 2 cas plus particuliers à régler. Ce sont celui de Damien Abad et de Chrysoula Zakharopoulou. Ils ont été visés par une plainte. Vont-ils sortir du gouvernement, ce qui créerait un précédent ? La présomption d'innocence sera-t-elle respectée comme ça a été le cas jusqu'à maintenant ? Et donc le président de la République pourrait les conserver à leur poste. Tout autant de questions qu'Elisabeth Borne a aussi tenté de trancher toute cette semaine avec les présidents des groupes parlementaires. Réponse donc a priori en début de semaine.
Julien Drey, un remaniement donc délicat à opérer pour l'exécutif, c'est quoi le but de la manœuvre ?
La question qui est posée, la première, c'est est-ce que le président de la République se remet dans le bain ? Parce que si on fait le bilan de la séquence, on a le sentiment, et maintenant c'est plus qu'un sentiment, qu'après le deuxième tour de la présidentielle, il y a une forme de lassitude, de désintérêt, ou en tous les cas de moindre engagement dans les affaires franco-françaises, comme on dit, de la part du président de la République. Alors, et je pense qu'il l'a payé avec le résultat des élections législatives, avec ce bricolage gouvernemental tel qu'il a été fait, si on ne met pas en cause la qualité des femmes et des hommes. Mais donc là, la question, c'est est-ce qu'il va s'engager ? Est-ce qu'il va être capable d'obtenir une ouverture supplémentaire ? Parce que Paris bruisse de rumeurs comme quoi on rechercherait tel ou tel profil. Je n'ai pas le numéro de téléphone, mais je peux le donner pour ceux qui sont candidats. ça bruisse de beaucoup de rumeurs. Donc la question est, est-ce qu'ils vont reconstruire un arc-en-ciel qui leur permettrait d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale ? Je pense que les téléphones vont beaucoup tourner là et que c'est quand même le président de la République qui fait le gouvernement. Ce n'est pas la première ministre.
Et puis des attentes des Français, parce que c'est vrai qu'entre la campagne, les élections législatives, une dernière semaine assez technique finalement à l'Assemblée nationale, en attendant, il y a des dossiers chauds, on le disait, à gérer.
Mais je crois que depuis sa réélection, Emmanuel Macron a un problème de cap, c'est-à-dire tout simplement, on a attendu la nomination d'Elisabeth Borne qui a duré, il y a eu l'élection sanction. Le président est parti, bon, le calendrier étant fait ainsi international sur ces 2 sommets, du coup on ne sait toujours pas où va la France en fait. C'est-à-dire que il a été réélu confortablement, les Français l'ont sanctionné immédiatement après, et donc il y a une prise en compte de ces deux de cette réélection à la fois et de cette sanction. Donc il y a un exercice difficile du pouvoir, et là on a envie de voir un président qui gouverne. Et là, je voyais les 2 scénarios. Il y aura un scénario qui serait donc lundi, ou alors un scénario qui attendrait le discours. Politique générale. Combien de temps va-t-on attendre avant de savoir où va aller la France pendant les 5 prochaines années ?
Et c'est vrai qu'on a parlé du dernier quinquennat, Thierry Mariani, comme étant celui de l'hyper-présidence. On est dans une situation inédite. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre ? À quoi est-ce que les Français doivent s'attendre ?
Écoutez, on est dans une situation inédite où le Parlement va retrouver un rôle, ce qui est quand même normalement sa fonction. Après, ce que je constate, c'est que depuis plusieurs semaines, on nous dit Mais cela n'est pas exceptionnel. Regardez par exemple ce qui se passe en Allemagne, où il y a des négociations, où on a un gouvernement, où par moment les différents partis... Oui, mais c'est une culture politique qui est aussi le résultat d'une action. Qu'est-ce que je veux dire par là? En France, on nous dit le président consulte. Il reçoit une heure et demie chaque dirigeant politique, et puis on considère que c'est fini. En Allemagne, c'est des semaines de discussion, un document qui, par moment, dépasse 100 pages, et où tout est détaillé pour savoir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Ce n'est pas une sorte de rendez-vous devant les caméras où, pendant une heure, on fait plus de la communication qu'une vraie négociation. Donc aujourd'hui, je constate que, d'abord, on a eu une série de rendez-vous avec Mme Elisabeth Borne, qui n'ont servi à rien. Maintenant, on a une autre série de rendez-vous avec le président de la République. Mais à la sortie, on est toujours dans le scénario qu'évoquait Julien Dray, à savoir c'est plus des débauchages individuels qu'une vraie alliance entre différents partis qui se mettraient d'accord sur un programme d'union nationale. Voilà. Et moi, je suis assez pessimiste sur l'avenir.
Alors, Elisabeth Borne, doit-elle se soumettre à un vote de confiance le 5 juillet? C'est la question du moment. Les Français ont répondu oui à 66%, non à 32%. C'est un sondage Odoxa pour le Figaro qu'on va voir à l'instant, que vous découvrez à l'antenne. Je vais vous poser la question. Je vous propose d'écouter à ce sujet Prisca Thévenot.
Il s'agit beaucoup de parler du vote de confiance qui est demandé par les uns et les autres de façon tout à fait légitime. Mais en réalité, je pense qu'on va juste se poser deux secondes et écouter ce qui s'est passé. Ce vote de confiance, il a déjà eu lieu.
Ah oui ?
C'est le vote de confiance que les Français nous ont adressé à nous, les 577 députés qui sommes rentrés à l'Assemblée nationale. Il a permis de voir, et je le disais en début d'émission, que nous avons besoin de débattre.
Ça fait pas une majorité absolue, justement.
De débattre, ben justement.
Nous le vote de confiance, ça n'est pas ça, vous le savez très bien.
Oui, mais enfin, je pense qu'à un moment, on est en permanence en train de courir, en train de se dire on va refaire le vote précédent sur le vote d'après.
Édouard Philippe n'est pas sur cette ligne. Il considère que c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut le faire.
Je ne suis pas sûre que, quand je pense à Elisabeth Borne, je pense timidité et prudence. C'est une femme engagée, c'est une femme de compétence, c'est une femme qui a le travail chevillé au corps. Elle a été, par rapport à celui, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, qui lui targue de faire un vote de confiance, elle a été au front pendant les législatives. Elle n'a pas simplement mis sa tête sur une affiche, elle a été mettre son nom sur un bulletin de vote. Et ce vote qui a été adressé à elle aux législatives est aussi un vote de confiance. Elle a été élue aux législatives. Mmh. Donc je pense que si effectivement il y a un vote de confiance, c'est pas une finalité en soi.
Alors un petit tour de table rapide, est-ce qu'elle doit se soumettre à un vote de confiance, Elisabeth Borne, Ludovine de la Roche?
Alors je crois que Prisca Thévenot mélange un petit peu, mais c'est une toute nouvelle députée, donc ça peut s'expliquer, il ne faut pas lui en vouloir, ça viendra. Là on parle évidemment d'un vote de confiance qui n'a absolument rien à voir. Pour ma part, franchement, j'aurais tendance à dire la seule chose qui compte, c'est que le gouvernement, le président, le Parlement se mettent au boulot. Il y a urgence. Mais si Elisabeth Borne renonce à se soumettre au vote de confiance, elle sera contestée. Et donc je crains qu'il ne soit nécessaire, parce que c'est l'usage, parce que si jamais elle n'échoue pas, il y a peu de chance, je le reconnais, mais elle sera confortée. Et à l'inverse, ce sera très difficile pour elle de gouverner si elle a refusé cette, c'est vrai, grande prise de risque. Moi, je pense qu'il faut vite traiter cela et qu'il s'y mette. Parce que pour le moment, on ne sait pas, c'est le flou et le vague. J'ajoute une autre chose. Emmanuel Macron a pris comme attitude de dire, et c'est ce que faisait d'ailleurs plus qu'à Thévenot avec les éléments de langage maison, visiblement, elle disait, nous avons été élus, Emmanuel Macron a été élu. Oui, d'accord. Mais enfin, le Parlement a une importance nouvelle. La démocratie va fonctionner et c'est formidable. Et donc, ça n'est pas la peine qu'Emmanuel Macron ne cesse de renvoyer aux oppositions. Il faut que chacun assume sa place, son rôle. Et encore une fois, que tout le monde se mette au travail pour la France et les Français.
Alors, je vous propose, vous parliez d'Emmanuel Macron à l'instant, je vous propose de revenir sur cette séquence, sur les réseaux sociaux, sur la diplomatie d'Emmanuel Macron, justement, qu'il aime bien mettre en avant sur les réseaux sociaux. Regardez plutôt cet exprès, on en parle dans un instant.
C'est ça qu'on doit discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions.
Ce qui ressort de ce G7, c'est que ça n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner.
Like I tell you, it's economy.
No, I agree.
Yeah.
doit.
Il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y ait la guerre, ne rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat. Et c'est la plus structurante, parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur. Voilà.
Alors, on vous remonte cette vidéo parce que c'est vrai qu'elle fait le buzz, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Elle suscite beaucoup de réactions, notamment Emmanuel Macron qualifié de héros de télé-réalité, je viendrai.
Je voudrais, si vous me permettez, revenir sur le vote de confiance. Moi, je pense que c'est nécessaire et absolu. Je ne connais pas une législature qui commence, surtout avec ce qui s'est passé, sans qu'on sache quelle est la nature de la majorité qu'a l'Assemblée nationale. Ou alors ça veut dire qu'on dit clairement qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qu'on va gouverner au jour le jour. Or, le vote de confiance, il scelle, c'est en ce sens-là que la jeune députée se trompe, il scelle l'existence ou non d'une majorité parlementaire. C'est pour ça qu'il est utile. Après, sur les images, moi, vous savez...
Justement, dans ce contexte un peu flou, est-ce que Emmanuel Macron n'est pas en train d'essayer d'exister sur la scène internationale?
Mais j'avais une petite divergence avec ce qui a été dit. Moi, je pense qu'on va avoir un double mouvement. Malheureusement, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement où effectivement l'Assemblée nationale va être un lieu de grande agitation et d'autre côté on va avoir un président de la République qui va essayer de se mettre au-dessus et de prendre que le bon et de laisser aux autres toutes les difficultés. C'est un mouvement assez classique des cohabitations de la Ve République parce que les institutions de la Ve République, c'est pas les coalitions. C'est ça le problème. Une dernière chose, c'est moi par rapport à ce qui est ce reportage, il y a une image qui m'a le plus interpellé et qui, d'après moi, remet en cause tout ce qui est en train de se passer sur le plan diplomatique. Vous avez une image, vous avez les 6-7 chefs d'État qui sont en bras de chemise, là, et qui se tiennent comme à la fin d'une partie de sport, etc. Ils rigolent. Et de l'autre côté, vous avez le sommet organisé par M. Poutine. Et d'un côté, vous avez 6 milliards d'êtres humains et d'autre côté, 1 milliard. Mais les 6 milliards d'êtres humains, ils montrent que M. Poutine, contrairement à ce qu'on nous a dit, n'est pas isolé du tout.
Thierry Mariani.
J'ai trouvé le film indécent. Vraiment indécent. Je veux dire, on est en période de guerre, les prix explosent à cause des sanctions qui servent à rien et les Français, comme les Européens, payent l'addition. Et on a une sorte de film de télé-réalité, Macron dans la guerre, qui négocie, etc.
Mais montrer aussi peut-être aux Français qu'il agit ?
Non, qu'il bouge, mais qu'il n'a pas de résultat. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui me surprend, si vous permettez un tout petit retour en arrière. Vous savez quand même qu'avant-hier, la fameuse présidence française de l'Union européenne s'est terminée. On n'en a pas parlé. Quel est le bilan ?
On en a parlé sur ce plateau.
Très peu. Mais alors, et alors, en plus, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on apprend le dernier jour qu'on passe un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Mais tout ça pour dire quoi ? Qu'en réalité, on est dans le cinéma permanent et qu'on essaye de faire oublier un certain nombre de choses. Moi, ce qui m'a choqué dans ce documentaire, et je pense que c'est extrêmement grave, c'est la divulgation de conversations privées avec un chef d'État.
Vous parlez de ce documentaire diffusé sur le service public, effectivement, oui. Où on voit Emmanuel Macron s'entretenir notamment avec Vladimir Poutine devant les caméras.
Oui, où on entend une conversation qui est retransmise, j'allais dire, devant les télés. Si vous permettez, la diplomatie, c'est le contraire de ça. La diplomatie, c'est les discussions discrètes. C'est arriver à un résultat, pas arriver à une image. Quel chef d'État, désormais, va faire confiance à Macron ? S'il sait que toutes ces discussions peuvent se retrouver demain diffusées sur les télés. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, Macron s'agite. Ça, les Français ont compris. Mais les résultats sont nuls.
Ce qui me choque dans cette vidéo, c'est pas... qu'on ait l'intention d'amener les Français et puis d'autres à l'intérieur d'un sommet, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on voit les chefs d'État interagir.
Ça humanise aussi appelle, un peu ces sommets.
Finalement. Bien sûr, qu'on voit ce qu'on appelle le body language, c'est-à-dire pardonnez-moi cet américanisme, mais qui montre un peu la façon dont peut se comporter Boris Johnson, dont peut se comporter Joe Biden. En revanche. Pourquoi le faire centré sur Emmanuel Macron ? Si Emmanuel Macron a des choses à nous communiquer, pourquoi l'entend-on lui et pas la réponse du chancelier Scholz, pas la réponse, à part des banalités. Finalement, il est en train de nous parler de choses quand même extrêmement sérieuses. Il est en train de nous parler du pouvoir d'achat, enfin, il est en train de nous parler de la crise mondiale, il est en train de nous parler du pétrole russe. Il s'est mis en scène, on parlait tout à l'heure de cette fameuse interpellation de Joe Biden, où on le voit en train d'évoquer la question de l'Inde et de la Russie, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure, mais la question du pétrole russe vendu à l'Inde, et comment faire pression, comment finalement faire en sorte que les sanctions qu'on met en place, que l'Europe, que les États-Unis mettent en place contre la Russie marchent. On a envie de comprendre ces mécanismes. Ça peut pas être fait comme ça avec un clip, en fait, un clip vidéo où on a des bouts de phrases comme ça qui n'expliquent rien. Parce que quelle est l'intention finalement ? Moi, ce que je comprends pas, c'est
pourquoi...
Est-ce
que c'est pas dire je travaille, je sais que vous avez...
Je travaille, mais arrêtez de prendre... Enfin, il ne faut pas quand même prendre les Français pour des idiots. Ils savent bien que là, il n'y a aucun secret et on a l'impression qu'il y a... Regardez, vous venez de montrer une personne qui fait semblant de masquer la caméra pour montrer qu'il y a quelque chose de secret et qu'il y a quand même des discussions qui se... Mais moi, quelle est l'intention, finalement ?
Justement, l'intention, c'est de montrer qu'ils essayent de faire quelque chose, c'est-à-dire de la gesticulation diplomatique par rapport à une réalité sur le terrain qui est complètement différente.
Non, mais
parce que c'est le fossé, d'après moi, ouais. C'est... On voit les chefs d'État, ils sont tous au travail, on a l'impression qu'eux.
Oui,
mais sur le terrain, excusez-moi, la Russie, elle avance.
Oui, c'est vrai, c'est la réalité.
Les Américains ont fait ce qu'ils voulaient. Oui. Et donc, comme on ne peut pas avoir ce débat politique, parce que c'est ça le problème qui est posé. Moi, le document, ça m'intéresse de savoir. Mais il y a un vrai débat politique qui est aujourd'hui posé, c'est où on va dans ce conflit et quel est le rôle de l'Europe, de la France, pour essayer de trouver une solution. On s'y installe et on fait de la gesticulation à ce moment-là.
Excusez-moi, on le voit bien au niveau européen, aujourd'hui, il n'y a plus de politique française. Il n'y a plus de politique étrangère française, où on est exactement à la remorque, à la fois au niveau européen, sous la pression des Polonais, des pays baltes, qui sont les plus proches alliés et inconditionnels des États-Unis. On est aujourd'hui sans politique étrangère. Le temps où, par exemple, Nicolas...
Sometimes the transition to fall and winter feels like experiencing every season on the same day. The shoes in the Allbirds Mizzle collection were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Check off your errands with the Wool Runner Mizzle, dash through cold and wet weather with the Wool Dasher Mizzle, or upgrade to next-level protection with the Wool Runner Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. allbirds.com, code FRESHSOCKS.